Il est 7h.
C'est un jour à marquer d'une pierre blanche, c'est un jour très important, puisque la France prend le train avec les autres grands pays de cette technologie clé.
Une révolution en marche, la France mise sur l'hydrogène. 7 milliards d'euros investis dans le cadre du plan de relance, un gaz déjà utilisé pour les taxis ou les bus, bientôt même pour les trains et les avions. Enquête d'Aurélien Fleureau dès le début de ce journal. La transition écologique, mais aussi l'emploi, fer de lance de ce plan annoncé par le gouvernement. Parmi les pistes, former les chômeurs ou les jeunes à des métiers qui seront porteurs à l'horizon 2030. Sortir masqué, une habitude désormais pour la plupart d'entre nous, et quelques désagréments, notamment pour la peau. La droite se cherche. Entrée officielle des Républicains à partir d'aujourd'hui, pas facile de trouver un candidat pour la prochaine présidentielle. Et puis la reprise du top 14 de rugby ce soir avec Montpellier-Pau après 6 mois sans compétition. Les clubs sont au bord de la faillite, quasiment tous ont dû baisser les salaires.
Juste après ce journal, un plan de relance économiquement ambitieux, mais sur le front social, c'est le calme avant la tempête. L'éclairage éco de Nicolas Barré à 7h10. Le regard international de Vincent Hervouette, 7h15. Et la campagne électorale ivoirienne qui se joue en plein Paris. L'édito sport de Virginie Fulpin à 7h20. Avant notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
100 milliards d'euros injectés dans notre économie en 2 ans, avec l'espoir de retrouver dans ce laps de temps le niveau de richesse de la France d'avant-crise. Voilà donc l'ambition du gouvernement qui va taper fort pour favoriser la transition écologique. 30 milliards.
Vous écoutez le monde changer en direct ce matin. On a choisi de s'arrêter sur l'effort conséquent pour favoriser la filière française de l'hydrogène. 7 milliards d'euros d'ici 2030, dont 2 qui seront injectés très rapidement.
Et avec vous Aurélien Fleureau, on va se pencher sur la question. D'abord un peu de pédagogie. L'hydrogène, c'est quoi exactement? Exactement.
Alors c'est un gaz invisible que l'on trouve dans l'eau, un gaz 14 fois plus léger que l'air, c'est même l'élément le plus petit et le plus répandu de l'univers. Combiné avec des hydrocarbures comme le charbon, il devient un formidable carburant. Il est utilisé dans les fusées par exemple, et de manière un peu plus terre à terre en France, c'est ce qui permet de faire fonctionner quelques lignes de bus ou certains taxis. Une fois transformé, l'hydrogène c'est le seul carburant zéro émission. Mais le problème, c'est sa production. Très émettrice en CO2. On parle d'hydrogène gris, d'énergie fossile. Et là, l'État vient d'investir pour produire de l'hydrogène vert, pour faire simple, fabriqué à partir d'eau et d'électricité qui vient d'énergie renouvelable.
Dans quel secteur est-ce qu'on utilise l'hydrogène ?
Alors l'industrie, la chimie et donc surtout dans les transports. En Allemagne, il y a déjà des trains fabriqués par Alstom qui d'ailleurs travaille en ce moment avec la SNCF à la mise en circulation de TER à hydrogène dès 2022. Et si tout le monde se lance aussi massivement, c'est parce que l'hydrogène a beaucoup d'avantages, comme le souligne Pierre-Étienne Franc, directeur monde de l'activité hydrogène énergie d'Air Liquide.
L'intérêt de l'hydrogène que l'on utilise pour faire de l'électricité, notamment dans les voitures, c'est que la densité de cette molécule est excellente, donc ça permet d'obtenir des conforts d'utilisation comparables à ceux d'une voiture thermique. Et cette molécule, lorsqu'elle réagit pour faire de l'électricité, n'émet aucune autre forme de substance que de l'eau.
Aurélien, est-ce qu'on peut aussi imaginer des bateaux ou des avions à hydrogène ?
Oui, les bateaux, c'est déjà le cas. Il y en a peu, mais c'est une option crédible pour rendre le transport maritime moins polluant. Pour les avions, en revanche, ce n'est pas avant 10 ou 15 ans, mais la technologie existe. Il s'agit de l'hydrogène liquide. Et ça tombe bien, les meilleurs spécialistes pour liquéfier l'hydrogène, eh bien, ils sont français.
Et cette filière, est-ce qu'elle pourrait générer des emplois ?
Oui, nous sommes là en plein dans l'objectif de relocaliser l'industrie. Michel Delpont, député de la majorité, qui a constitué un groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée, annonce déjà une pépinière d'emplois.
L'objectif aujourd'hui, c'est de garder notre savoir-faire, de garder nos chercheurs. On va créer des emplois, ça c'est très important. Et on va créer une nouvelle économie. C'est une véritable révolution, quelque part, comme on l'a vécu d'ailleurs avec le numérique.
Alors, il reste tout un écosystème à construire, que ce soit pour le stockage, le nombre de stations de recharge ou même les filières pour former à ces emplois de demain. Mais avec 7 milliards d'euros sur 10 ans, tous les acteurs du secteur se disent qu'un tournant décisif vient d'être pris.
Éclairage signé Aurélien Fleureau.
On parlait d'emplois dans le secteur de l'hydrogène. Plus généralement, c'est bien la priorité du gouvernement. 800 000 postes pourraient disparaître cette année.
Alors l'enjeu, Olivier Samin, c'est de reconvertir les chômeurs ou les jeunes et de les former aux métiers qui auront le vent en poupe dans les 10 ans à venir.
La transition écologique, le numérique, l'industrie du futur, les métiers de la santé et du grand âge. C'est sur ces compétences et quelques autres que le gouvernement veut mettre le paquet. Et l'effort va concerner tous les publics. Les jeunes, pour qui 200 000 places supplémentaires vont être réservées. Les chômeurs, pour eux, le gouvernement va voir avec les régions comment réorienter les formations qui leur étaient destinées. Les salariés aussi, ceux notamment qui sont en activité partielle, à qui on demandera de se former pendant le temps où ils ne travaillent pas. Tous les spécialistes le disent, il y a des secteurs comme l'aéronautique ou l'hôtellerie-restauration qui ne retrouveront pas leur niveau d'activité d'avant la crise et dont une partie des salariés va devoir se reconvertir. C'est l'un des principaux défis du plan de relance. Comment convaincre le technicien d'un sous-traitant d'Airbus ou le maître d'hôtel d'un grand restaurant de faire le deuil du métier qu'ils se voyaient exercer toute leur vie pour se réorienter vers toute autre chose, le cas échéant dans une autre région.
Olivier Samain.
7h06 sur Europe 1. Sortez masqués, c'est la consigne que nous sommes très nombreux à respecter dans les grandes villes, dans les transports, au travail. Il faut bien s'habituer à le porter sur la durée.
Alors on a parfois un peu de mal à respirer, de la buée sur les lunettes, n'est-ce pas Mathieu ?
Ça peut arriver.
Et parmi les autres désagréments, il y a aussi de petits problèmes de peau. Hélène Terzian.
À force de porter le masque dans les transports, dans la rue et même en cours, hier matin, Éléonore s'est réveillée avec une mauvaise surprise sur la pommette.
Ça m'a fait un petit bouton sous l'œil, au niveau de la joue. Ouais, donc on a le masque, plus après on a un bouton, deux boutons, on s'en sort plus là. Hein. Très compliqué pour draguer.
Ça n'aide pas à séduire, mais c'est surtout désagréable pour Mélissandre.
Ça m'irrite la peau, ça brûle, ça me gratte et ça fait des rougeurs.
Et pas que sur le visage, insiste Frédéric.
Derrière les oreilles aussi, les élastiques gênent beaucoup. C'est rouge derrière les oreilles, c'est irrité.
La macération peut créer des irritations au niveau des points de frottement, confirme la dermatologue Annick Barbeau. Mais si les allergies sont rarissimes, la chef de service à l'hôpital Tenon à Paris alerte, le port du masque jetable ou en tissu peut aggraver les problèmes cutanés existants.
Cet eczéma qui peut exister à l'âge adulte, là l'occlusion peut entraîner un eczéma un peu plus intense que d'habitude. Pour la rosacée, le port du masque peut entraîner un petit peu plus de pustules et pour les acnéiques, un petit peu plus de lésions d'acné.
Dans ce cas, elle recommande d'augmenter le traitement dermatologique. Quant aux irritations passagères, on les évite en se rinçant la peau après la toilette et en appliquant une crème hydratante avant de se coucher.
Près de 300 000 foyers dans le noir hier soir dans 4 départements. Panne d'électricité géante qui a notamment touché la Haute-Vienne, mais aussi la Creuse, l'Indre et la Corrèze. Un incident sur un poste électrique qui a été réparé vers minuit.
Le courant va-t-il passer, tiens, entre les Républicains ? Ils font en tout cas leur rentrée politique. C'est à partir d'aujourd'hui à Port-Marly, dans les Yvelines.
Au cœur des discussions, la proposition de Christian Estrosi qui appelle à soutenir Emmanuel Macron pour 2022. Proposition qui n'a pas franchement emballé les foules. Reste le problème de fond. Quel candidat pour la droite à la présidentielle ? Aurélie Herbemont.
C'est un XLR qui résume le problème. Ils ne peuvent ni faire une primaire, ni pas faire de primaire. À droite, le casse-tête autour de la désignation du candidat pour 2022 a de beaux jours devant lui. Une primaire ouverte, comme en 2016. 4 millions d'électeurs, véritable succès qui termine en crash. Avec un François Fillon plombé par les affaires mais indébranchable, beaucoup ne veulent plus en entendre parler. On a été vaccinés, pas question de se saborder à nouveau, tempête un dirigeant. A l'inverse, ce député estime que ce serait crétin de ne faire voter que les militants. La primaire est le moins mauvais des systèmes. Alors à droite, on phosphore, des élus réfléchissent à une solution intermédiaire. Des non-adhérents pourraient voter, mais en s'inscrivant au préalable et en intégrant un fichier de sympathisants. D'autres songent à des collèges de militants, parlementaires et élus locaux pour désigner le candidat. Et puis il y a ceux qui plaident pour la sélection naturelle avec un leader qui s'impose dans les sondages. Autant dire que le plus dur sera de mettre tout le monde d'accord sur les règles du jeu.
C'est un livre qui va faire parler Flic du journaliste Valentin Gendreau. Il s'est infiltré pendant 2 ans dans la police et il était l'invité de Sébastien Krebs à 6h40. Il évoque une minorité de policiers au comportement violent, raciste, sexiste et la majorité qui couvre, tout simplement, explique-t-il, parce que dans la police, on ne balance pas. L'IGPN, la police des polices, est saisie. Sachez aussi que l'adolescent de 16 ans, auteur d'un clip de rap montrant des dealers à Grenoble, vient d'être mis en examen pour trafic et usage de stupéfiants.
Et de 6, après Neymar, Paredes et Di Maria, le Paris Saint-Germain confirme donc que 3 nouveaux cas positifs ont été décelés parmi les joueurs.
Selon le journal L'Équipe, il s'agit d'Icardi, Navas et du capitaine Marquinhos. Un cas également chez les Bleus, Steve Mandanda, le gardien numéro 2, est forfait pour le match de demain contre la Suède et pour celui de mardi contre la Croatie. Il quitte le groupe et il ne sera pas remplacé.
Du côté du ballon ovale, à présent, c'est aujourd'hui le retour du top 14 après 6 mois sans compétition. À l'affiche, Montpellier-Pau.
En remplacement de la rencontre Stade Français-Bordeaux-Bègles, reportée pour cause de Covid, une reprise vitale pour l'économie du club. Corinne Boulou.
Je pense qu'il est vraiment temps de reprendre. Après, on sait très bien qu'on va reprendre dans des conditions un peu différentes et peut-être étranges.
Mais elle est tellement attendue, cette reprise, après une si longue absence, que le jeune Lyonnais Pierre-Louis Barassi est prêt à tous les cas de figure, joué comme patienter en cas de report de match. L'international du Racing 92, Camille Chat, testé tous les 2 jours, navigue lui entre crainte et envie de retrouver les terrains.
Il y a de la crainte par rapport au déroulement du championnat. Après, il y a beaucoup d'envie parce que ça fait 5 mois qu'on n'a pas joué au rugby. et je pense qu'on a tous envie de reprendre et on aimerait que la saison se passe bien et qu'elle se termine dans de bonnes conditions.
C'est aussi une reprise vitale pour des clubs qui ont souffert économiquement. 13 clubs sur 14 ont baissé les salaires et la jauge réduite de spectateurs, alors que le public génère 60% des revenus des clubs, les fragilise. La perte lors des 6 premiers matchs est déjà estimée pour le top 14 et la Pro D2 à au moins 30 millions d'euros.
Et 3 rencontres de cette première journée ont obtenu une dérogation pour dépasser la jauge des 5 000 spectateurs. La Rochelle-Toulon, 8 000, Brive-Bayonne, 9 000 et Clermont-Toulouse, 10 000.
Merci beaucoup Hélène Zellani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous avez entendu dans le journal l'enjeu des formations, les reconversions, les métiers de demain. L'emploi est à la une ce matin sur Europe 1. Et pour vous aider, tiens, pour comprendre, je reçois aujourd'hui la directrice générale France du premier réseau social professionnel au monde, LinkedIn. Quelles évolutions sur ce marché de l'emploi depuis le confinement? Quelles perspectives pour les mois qui viennent? La patronne de LinkedIn France dans le tête-à-tête à 7h40. On a besoin d'elle pour comprendre parce que dans un instant, Nicolas Barré va nous expliquer que même si le plan de relance est ambitieux, ce qui se profile, c'est une catastrophe sociale. L'éclairage écho dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h13 sur Europe 1 et c'est l'heure de l'éclairage écho avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est l'un des volets les plus importants du plan de relance, tout faire pour éviter une catastrophe sociale qui semble pourtant de plus en plus inévitable.
Vous savez, cette rentrée sociale, effectivement, est complètement atypique. Ça ressemble au calme avant la tempête. Il n'y a pas de plan de licenciement massif. On est encore dans une phase où les entreprises sont sous assistance respiratoire. Elles ont des reports de charges, elles ont du chômage partiel, elles ont des prêts garantis. Bref, elles ont de quoi tenir. Nous avons fait le tour des tribunaux de commerce dans les grandes villes françaises et tous nous disent à peu près la même chose. Il y a peu de liquidations, de faillites, de procédures de redressement, mais tous ajoutent que ça n'est pas bon signe.
Mais pourquoi ?
Bah, parce qu'on va arriver fin septembre, à la fin de cette période où l'économie était sous morphine, où on pouvait reporter les échéances, et là, l'atterrissage risque d'être sévère. François Asselin, le patron de la CPME, l'organisation patronale qui représente les PME, estime que beaucoup d'entreprises vont mettre un genou à terre cet automne. Alors, ça inquiète fortement les pouvoirs publics. On risque de voir une avalanche de défaillances et de plans sociaux d'ici la fin de l'année, d'où 15 milliards sur les 100 milliards du plan de relance. Ciblée sur l'emploi et la formation. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, parle d'un bouclier anti-licenciement. Belle image, mais trompeuse.
Vous voulez dire que ce bouclier ne tiendra pas ?
Ben, je vous prends un exemple. Le dispositif social le plus important, la moitié des 15 milliards, vise à financer ce qu'on appelle l'APLD, l'activité partielle de longue durée. Quand une entreprise qui n'a pas assez d'activité passe un accord avec les syndicats pour baisser le temps de travail, ça peut aller d'ailleurs jusqu'à moins 40% pendant 2 ans, et c'est l'État qui finance. C'est très bien, sauf que beaucoup d'entreprises se disent aujourd'hui que ça ne suffira pas, que leur carnet de commandes va rester durablement très bas, et donc qu'il faudra faire des licenciements pour réduire l'excès de main-d'œuvre. Autre exemple, l'État va mettre beaucoup d'argent sur la formation pour aider les gens à changer de voie, mais se former pourquoi ? Beaucoup d'employeurs sont dans un brouillard total et ne savent pas dire de quelles compétences ils auront besoin d'ici 1 an ou 2. Bref, la rentrée sociale pour le moment est calme, mais là c'est un calme qui n'annonce rien de bon.
Le calme avant la tempête, dites-vous. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, et je vous rappelle que je reçois la patronne de LinkedIn France à 7h40 ce matin. On va parler du marché de l'emploi, 7h16. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
C'est maintenant, bonjour.
On ne le croirait pas, mais une féroce campagne électorale se déroule en ce moment à Paris. Oui, à Paris, la campagne électorale ivoirienne.
Alors devine qui vient déjeuner à l'Élysée. Le président ivoirien Alassane Ouattara, son entourage se félicite, mais l'Élysée ne confirme pas le rendez-vous, il ne figure pas sur l'agenda officiel, il n'y aura pas de photo. C'est dire l'embarras de Paris. La France redoute d'être de nouveau entraînée dans une crise ivoirienne. On peut toujours répéter la France-Afrique c'est terminé, sauf que l'armée française est à Port-Boué, la logistique de Barkhane transite par le port d'Abidjan, la Côte d'Ivoire est aussi la capitale économique de toute la zone, et l'intérêt de la France, c'est donc la stabilité. Or, justement, la dernière présidentielle, il y a 10 ans, s'est terminée avec 2 vainqueurs. Il a fallu que les Marsouins mettent fin au bain de sang. L'avant-dernière fois, il y a 20 ans, le pays s'est brisé en deux, à la clé de toute une spirale de règlement de comptes. Et d'ailleurs, ça recommence. Il y a eu au moins une 20aine de morts en août. Cette semaine, à Beyrouth et à Bagdad, Emmanuel Macron a pris des risques politiques évidents, des risques diplomatiques. Mais le plus grave des risques, c'est celui qu'il court aujourd'hui dans sa salle à manger.
Le président président Alassane Ouattara est candidat à un troisième mandat. Et si l'Élysée l'accueille, c'est que la France le laisse faire ?
C'est un homme obstiné, ivoirien, sinon son objectif. Il avait promis de ne pas s'accrocher au pouvoir. Emmanuel Macron l'avait chaudement applaudi. Mais le dauphin désigné, le Premier ministre, est mort cet été, son cœur a lâché. Et au lieu de repousser le scrutin, de rechercher le consensus, Alassane Ouattara est redescendu dans l'arène. Il a fait don de sa personne au pays, air connu, avec un tour de passe-passe. Ce n'est pas un troisième mandat, mais le premier mandat de la nouvelle constitution. Le cardinal l'archevêque d'Abidjan l'a appelé cette semaine à la raison au nom du respect du droit. En vain, le porte-parole du président a riposté en allant sur le parvis de la cathédrale, sermonner publiquement le prélat, ça dit l'ambiance.
Et les rivaux du président l'accusent de tricher.
Évidemment, il crie au voleur. Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle tombé en disgrâce, vit en exil à Paris. Il a envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour qu'il récuse la candidature Ouattara. L'ancien président Henri Conan Bédié en a fait autant. Il a 86 ans, toujours candidat. Enfin, Laurent Gbagbo, qui vient de passer 7 ans dans les geôles de la Cour pénale internationale avant d'obtenir un non-lieu, rêve de revanche. Et avec Alassane Ouattara, ils sont donc 4. Ils se détestent, ils se connaissent par cœur, ils se détestent par cœur, s'accusent les uns et les autres d'être illégitimes et ils sont prêts à mener le pays en enfer. Tous dénonceront l'ingérence de la France s'ils n'obtiennent pas le soutien de l'Élysée.
Merci Vincent Hervouette. Le regard international tous les matins, 7h15 sur Europe 1. À suivre, pourquoi dit-on avoir le cœur sur la main ? L'origine de cette expression, vous vous régalez le matin avec Stéphane Bern, votre rendez-vous d'histoire, avant 7h30. Mais tout de suite, c'est la reprise du Top 14 ce week-end. Beaucoup de clubs ont obtenu des dérogations pour accueillir plus de 5000 spectateurs. C'est moins souple dans le football. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ? L'édito sport de Virginie Fulpin dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
C'est l'heure de la reprise pour le Top 14, le championnat de France de rugby. Ce week-end, dès ce soir, contrairement au foot, plusieurs matchs vont avoir lieu avec plus de 5000 spectateurs en tribune. La préfecture, les préfectures ont accordé des dérogations. Pour vous Virginie, il y a un vrai problème de différence de traitement entre les publics, celui du rugby et celui du foot.
Ouais, je pensais bêtement qu'on avait tous les mêmes droits, qu'on aime le foot ou le rugby, mais visiblement je me trompais, que les préfectures accordent des dérogations et que plus de 5000 spectateurs puissent aller voir un match du Top 14 ce week-end à La Rochelle, à Brive et à Clermont. C'est une excellente nouvelle. Jusqu'à 10 000 personnes pour Clermont-Toulouse dimanche. On peut comprendre que la billetterie représente une part beaucoup plus importante dans les budgets des clubs de rugby que pour les clubs de foot, puisque les droits télé sont nettement supérieurs au football et font rentrer plus d'argent dans les caisses. Mais là où ça ne passe pas, c'est quand j'entends les explications des préfectures. On nous dit tranquillement que le public du rugby est plus calme que celui du foot. Sérieusement, ça va aller les clichés là ? Moi j'ai l'impression que dans les préfectures, on distribue des grilles de lecture très binaires, vous savez. Bonjour madame, alors vous aimez quel sport ? Le foot ? Ah bon, bah donc vous êtes une décérébrée incapable de respecter les gestes barrières. Et vous, monsieur, vous êtes fan de rugby. Ah bon, bah donc vous êtes intelligent et sage en tribune. Très bien. Je caricature à peine, en fait. Vous vous rendez compte du message envoyé ? Il y a les citoyens de première zone, ceux qui aiment le rugby, et les citoyens de seconde zone, ceux qui ont le mauvais goût de s'intéresser au foot. On fait déjà tout, habituellement, pour les empêcher d'aller soutenir leur équipe, mais là, on profite de la crise sanitaire pour enfoncer le clou.
Et donc vous demandez, Virginie, qu'il y ait aussi des dérogations accordées pour des matchs de foot ?
Bah, évidemment. Alors c'est vrai, le Sporting Club de Bastia est autorisé à accueillir 6500 personnes. C'est déjà un premier pas, mais c'est en national. Pour l'instant, en Ligue 1, rien. Au cas par cas, il faut qu'il y ait des dérogations aussi. En tout cas, soit il en faut pour tous les sports, soit pour aucun. Si on peut dépasser 5000 spectateurs au rugby, je vous assure qu'on peut y arriver aussi au foot. Les supporters sont capables de comprendre le port du masque et la distanciation physique. Sinon, on reproduit dans le sport exactement ce qui s'est passé cet été pour la culture. C'est oui pour le Puy du Fou, c'est non pour les autres spectacles. Et hop, on repart pour une bonne polémique. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée ? Moi, j'ai l'impression qu'on a suffisamment de sujets qui nous divisent pour ne pas en inventer d'autres, comme cette différence de traitement entre les fans de rugby et les fans de football. Il paraît même que certains aiment les deux sports. Mais putain, je voudrais choquer personne surtout.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. Vous avez écouté attentivement. Je suis sûr que vous avez un avis. L'édito sport, c'est tous les matins, 7h20 sur Europe 1. Et cette année, tous les matins, juste après l'édito sport, ce rendez-vous d'histoire, nous retrouvons Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Alors cher Mathieu, chers auditeurs, aujourd'hui je voulais vous rendre hommage. Oui, je tenais pour ce vendredi à terminer la semaine en douceur et dans la bienveillance. C'est en effet un 4 septembre que le pape François a canonisé avec raison Sainte Thérèse de Calcutta, plus connue sous le nom de Mère Teresa. L'expression du jour sera donc « avoir le cœur sur la main ». Étrangement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avoir le cœur dans la main signifiait avoir la nausée. Rapidement, on aura le cœur sur la main signifiant qu'on est prêt à donner son bien le plus précieux.
Le cœur, c'est l'amour, mais il symbolise aussi la générosité.
Ah oui, absolument. C'est en effet l'organe qui symbolise par excellence la force de l'âme, mais de façon contradictoire. Avoir la main sur le cœur peut également signifier mentir. Il m'a raconté ça, la main sur le cœur. Notons avec malice qu'en Tunisie, on trouve « avoir grand cœur », on trouve également l'expression « avoir la main généreuse », mais à aucun moment, le cœur ne vient sur la main. Alors, continuons notre petite visite internationale. À la place d'avoir le cœur sur la main au Pays de Galles, on dit « avoir le cœur propre ». En Espagne, on dit « être meilleur que le pain ». C'est assez poétique d'ailleurs.
En France, on s'embrasse comme du bon pain.
Oui, exactement. Et le pain n'est jamais dur. Ce qui est dur, c'est de ne pas avoir de pain. Pour rester, ça c'est mon grand-père qui disait ça, pour rester dans la poésie, j'aimerais citer une fois n'est pas coutume un rappeur, Gringe. Vous savez, le complice d'Orelsan. Comme celle à qui j'ouvre mon cœur et qui aura bientôt à cœur de me l'ôter, je vais devoir lui dire qu'aimer, ça fait mal comme lire la vérité.
On citait du latin il y a deux jours, on en est à Gringe aujourd'hui. Stéphane oui. Bern, on va vous retrouver à 16h, historiquement vôtre. Quel est le programme du jour?
Une nouvelle fois, un casting de choix cet après-midi avec Pablo Picasso, Albert Camus et Shakira. Vous avez trouvé le point commun, Mathieu?
Je cherche et j'ai pas du tout. Shakira, Picasso et Camus.
Eh ben, ils sont tous les trois fans de foot. À la veille du retour des Bleus sur le terrain, on parle foot. Et oui, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël de 16 à 18h sur Europe 1.
Merci Stéphane et à tout à l'heure. 16h sur Europe 1, 7h26. À suivre la météo avec Laurent Cabrol et un nouveau journal 7h30 avec Sophie Eschen. Très bon réveil à tous.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
7h29, Laurent Cabrol est avec nous, c'est la météo.
La pluie se situe actuellement sur les îles britanniques, elle arrive dans le Devon, du côté de Plymouth, et c'est elle qui vient déborder sur la Manche et la mer du Nord. C'est cette perturbation qui vient nous casser un petit peu les pieds, parce que c'est vrai que dans cette partie de France, Manche et mer du Nord, on n'est pas très gâtés depuis plusieurs jours, et on ne le sera pas encore. Donc le ciel est gris, il restera gris une bonne partie de la journée, avec quand même sur les plages, nous aurons un brin de soleil. Allez, je vous le promets. Les températures pour partout ailleurs, c'est un grand soleil. Hein. Sur Paris, ce sera légèrement nuageux, mais pas grave. Et partout ailleurs, c'est le grand beau. 34 à Bordeaux, 33 à Lavaur et Toulouse, 32 à Clermont-Ferrand, 31 à Bourges, 29 dans la capitale où il fait déjà 20 degrés, 28 à Marseille, 27 à Nantes, 26 à Nice et 23 à Caen. Bref, c'est une journée d'été, profitons-en. Demain, ça va baisser et dimanche, il fera un petit peu plus frais.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Eschen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Ça fait deux semaines que ça nous hante, jour et nuit. Tous ces sévices se rapprochent quand même de la frontière. C'est vraiment de la barbarie.
Encore de nouveaux cas de chevaux mutilés en Bretagne et en Haute-Vienne. La psychose dépasse les frontières. Les propriétaires suisses ont décidé de rapatrier leurs animaux. Le gouvernement veut développer l'usage du vélo, mais dans les grandes villes, un cycliste sur trois se le fait voler. La solution, c'est sans doute la puce électronique cachée dans votre engin. La grande crainte des démocrates aux États-Unis. Beaucoup de leurs électeurs vont voter par correspondance à la présidentielle, mais leurs bulletins seront dépouillés plusieurs jours après le scrutin. Et puis le nouvel album de Julien Doré sort aujourd'hui, mélange de pop, d'humour et de poésie, mais aussi un regard incisif sur notre société.
Juste après ce journal, le Premier ministre fixe un objectif à 160 000 créations d'emplois d'ici 2021. Zoom sur le marché du travail avec le réseau social professionnel LinkedIn. La patronne de LinkedIn France, Fabienne Arata, dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. L'édito politique de Nicolas Bétou à 8h10 et on va retrouver Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des oreilles coupées, des mutilations, des lacérations, les attaques contre les chevaux se multiplient en France depuis le début de l'année. Des dizaines de cas ont été recensés dans le pays sans que les enquêteurs ne parviennent à retrouver les auteurs de ces actes.
Si bien que la psychose se répand chez les propriétaires. Et ça va même au-delà des frontières en Suisse, par exemple. En Suisse, le pays voisin du Jura, où 5 actes de cruauté ont été recensés le mois dernier.
Résultat, certains propriétaires suisses qui avaient mis leurs chevaux en pension en France prennent les devants et commencent à les rapatrier, comme l'a constaté Jean-Luc Boujon.
C'est le groupe de droite, les 4, là, les tout gros. Alors on a Obélix en tout premier, c'est le plus imposant. Et puis derrière, ces 3 juments, ils sont contents, ouais.
Ces 4 chevaux comtois, Anouk Thibault les a récupérés en fin de semaine dernière. Cette propriétaire d'un refuge pour équidés tout à côté de Genève est allée les chercher de l'autre côté de la frontière à Mijoux, dans le massif du Jura, où elle les avait mis en pension au début de l'été. Mais les derniers actes de mutilation, qui ont eu lieu à seulement 30 km de là, l'ont convaincu qu'il fallait abréger leur séjour en France.
Ça fait 2 semaines que ça nous hante, jour et nuit, tous ces sévices qui se rapprochent quand même de la frontière. Ces chevaux, c'est la famille. Dans ce cheval, Obélix, que vous voyez, ça fait 20 ans que je l'ai, c'est un compagnon de vie. C'est vraiment de la barbarie.
Et Anouk n'est pas seule dans ce cas, d'autres propriétaires suisses ont fait comme elle, ce que comprend Jean-Marc Lançon, l'agriculteur jurassien qui s'occupait de ses chevaux.
Je comprends tout à fait le choix de redescendre les animaux cette année. Les animaux n'étaient plus en sécurité. J'ai encore des chevaux. On les a rapprochés du cœur de la ferme pour les avoir relativement proches de nos yeux. Mais les attaques peuvent survenir aussi bien la nuit que le jour et donc c'est invivable.
Une peur contre laquelle il n'y a pour l'instant pas grand-chose à faire malgré les patrouilles de gendarmes qui se sont multipliées ici ces derniers jours. Mijoux, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Le plan de relance de l'économie a été dévoilé hier. 100 milliards d'euros pour se relever de la crise sanitaire, mais aussi pour préparer l'avenir du pays. Ça passe bien sûr par la transition écologique.
Et l'un des ingrédients clés de cette relance verte, c'est la généralisation du vélo. Alors que vous êtes de plus en plus nombreux à pédaler depuis le déconfinement, le point négatif, c'est que les deux roues attirent la convoitise des voleurs.
Plus de 20 000 vélos sont dérobés chaque année. 20 000, ils ne sont jamais retrouvés dans la majorité des cas. Et il n'existe toujours pas d'antivol 100% efficace. Alors les professionnels innovent. Exemple dans cette boutique parisienne où s'est rendue Zoé Pallier.
Dans la boutique Vélo Bécane, Pauline vient d'acheter un nouveau vélo électrique. Elle l'a pris jaune, comme le précédent qu'elle vient de se faire voler. Malgré 2 chaînes en acier solidement accrochées que les voleurs n'ont eu aucun mal à couper. Depuis, même avec un solide antivol.
Je ne suis pas du tout plus sereine. Je le garde jamais très loin de là où je suis. Plusieurs fois par jour, j'essaie de regarder par la fenêtre pour voir si tout va bien.
Avishai Mamou, ingénieur chez Vélo Bécane, lui présente sa nouvelle invention.
C'est une puce qui est intégrée sur le vélo, qui permet de géolocaliser le vélo. Si on se le fait voler.
Ça, c'est vraiment l'avenir. Je veux ça sur mon vélo.
En arrière-boutique, Avishai Mamou travaille depuis des mois sur ce projet de GPS intégré.
Il y a un abonnement de 3 à 4 euros pour le moment. Si la personne s'inscrit, elle aura sa puce cachée dans le vélo. Il va permettre de géolocaliser le vélo avec l'application mobile. On a fait une puce autonome qui est alimentée elle-même toute seule. Elle va durer environ 10 jours d'autonomie. Donc en cas de vol, on pourra aller à la police et la police ira chercher le vélo directement.
Et pour limiter les possibilités de vol, l'ingénieur garde secret l'emplacement de la puce dans le vélo. Même les utilisateurs ne sauront pas où elle se trouve.
Le reportage de Zoé Pallier pour Europe 1.
7h34, Donald Trump réélu à la tête des États-Unis juste avant de céder sa place à Joe Biden. Oui, vous comprenez le ton de la question. C'est le scénario qui pourrait se produire dans 2 mois à l'issue de l'élection présidentielle américaine.
On n'est pas sûr que le nom du nouveau président soit annoncé le 4 novembre au lendemain du scrutin. À cause de la pandémie de coronavirus, beaucoup d'Américains vont privilégier le vote par correspondance. Résultat, Xavier Yvon, le dépouillement pourrait prendre plus de temps que prévu.
C'est la grande inconnue de cette élection, les votes par correspondance. Par peur du virus, un Américain sur 3 prévoit d'envoyer son bulletin par la poste, c'est inédit, et ça pose des questions logistiques. Est-ce que tout ce courrier supplémentaire arrivera à temps? Et surtout, combien de temps ça va prendre de compter ces votes par correspondance, qui sont déjà plus longs à dépouiller en temps normal? Ça inquiète particulièrement les démocrates, car selon les sondages, ce sont principalement les électeurs de Joe Biden qui prévoient de voter par courrier. Ceux de Donald Trump, eux, devraient en majorité faire le déplacement aux urnes, d'où ce scénario catastrophe qui fait cauchemarder les stratèges démocrates. Au vu des premiers résultats, Donald Trump est en tête le soir de l'élection et se déclare vainqueur, sauf que ce ne serait en fait qu'un trompe-l'œil, car Joe Biden finirait par rattraper son retard et gagner quelques jours plus tard, quand tous les votes par correspondance auront été comptés. Mais le mal serait fait et Donald Trump pourrait crier à la fraude. Il dénigre déjà régulièrement le vote par courrier. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, mais les démocrates préfèrent se préparer et prévenir l'opinion et les médias. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
En France, Emmanuel Macron est attendu au Panthéon ce matin. Le chef de l'État prononcera un discours à l'occasion des 150 ans de la République. À cette occasion, il procédera à la naturalisation de 5 nouveaux citoyens. Et puis le dérèglement climatique, la crise de l'hôpital public. Julien Doré change de registre dans son dernier album dévoilé aujourd'hui.
Aimé, c'est le titre de ce disque en hommage à la grand-mère du chanteur, militante féministe, qui a longtemps combattu pour les droits des veuves de mineurs. À retrouver dans cet album de l'humour et de la poésie, mais aussi un brin d'ironie, reconnaît Julien Doré au micro d'Angèle Châtelier.
Il y a beaucoup de soleil dans la production de ce disque, mais c'est un disque sur demain, d'un gars que je suis, qui simplement ne veut pas cacher au nom du divertissement sa part de pessimisme dans ce qu'il écrit aujourd'hui.
C'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket.
Je parlais déjà sur le précédent album des piliers qui soutiennent les sociétés, celui de l'éducation, de la culture. Pendant le confinement, je pense qu'on a tous vraiment pris conscience de l'état de notre hôpital public. La revalorisation des salaires qui est dans plein de domaines, un mythe comme ça qui flotte comme une récompense qu'on agite au-dessus de gens qui se tue à la tâche, tout ça est profondément insupportable.
Tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité de toi.
Mais là-dedans, il y a aussi des kilos, des tonnes d'espoir, de rêves sur le lendemain, sur ce qui suivra, que j'exprime aussi.
Nous, on s'en fout.
Vous entendez donc un extrait d'Aimer, le nouvel album de Julien Doré, à retrouver dans les bacs aujourd'hui.
Merci beaucoup. Dans les bacs, on dit encore dans les bacs?
Bah je crois.
Non, mais maintenant c'est tout est numérisé. Non, il y a encore des CD en physique à retrouver dans les bacs, Julien Doré. Merci beaucoup. Sophie Echen, c'était le journal de 7h30, 7h38.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Sonia Mabrouk reçoit l'homme de la semaine, l'homme de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Combien d'écoles, combien de collèges, combien de classes sont fermées ce matin à cause du Covid? Avec Jean-Michel Blanquer, ce débat aussi qui divise le gouvernement. En sauvagement, insécurité ou sentiment d'insécurité, sur notre antenne mardi, Éric Dupond-Moretti dénonçait la surenchère populiste. Qu'en pense Jean-Michel Blanquer? Il sera à 8h15 sur Europe 1. Mais tout de suite, le Premier ministre Jean Castex fixe un objectif de 160 000 créations d'emplois d'ici 2021. Est-ce que c'est crédible? Comment est-ce qu'on fait? La patronne France de LinkedIn, le premier réseau social professionnel au monde, Fabienne Arata, dans le tête-à-tête Europe Matin, dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h41 sur Europe 1. Au lendemain de l'annonce du plan de relance, dans Europe Matin, nous avons choisi de nous arrêter sur l'emploi, le marché de l'emploi. En première ligne, sur le réseau social professionnel LinkedIn, on observe les tendances depuis déjà de longs mois. Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, est mon invitée.
Le tête-à-tête.
Bonjour Fabienne Arata.
Bonjour Mathieu Béliard.
Et merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors, une simple précision pour démarrer. Je dis directrice générale de LinkedIn France, mais votre vrai titre, c'est Country Manager. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai le plaisir d'animer l'ensemble des activités de LinkedIn, tant avec nos 20 millions de membres en France, c'est-à-dire 69% de la population active, qu'avec nos clients, les entreprises que nous accompagnons, c'est-à-dire un peu plus de 840 000 entreprises de toute taille en France.
Alors, il y a beaucoup de nos auditeurs, j'en suis sûr, qui sont inscrits chez vous. C'est un réseau social professionnel, LinkedIn, que vous dirigez pour la France. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un mélange entre Facebook et Pôle emploi?
Alors, nous sommes un réseau social professionnel. Ça veut dire que nous offrons à l'ensemble des actifs qui conversent sur la plateforme une mise en relation entre les professionnels et puis entre les professionnels et les entreprises. Et nous les accompagnons sur trois grands volets en ce qui concerne les professionnels, la recherche d'emploi, la connexion, le travail de leur réseau, et on verra que c'est particulièrement important lorsqu'on recherche un emploi que d'avoir un réseau professionnel, et puis les contenus, c'est-à-dire en particulier les contenus de formation, s'informer sur son entreprise, s'informer sur l'emploi, s'informer sur l'économie.
Alors, je voudrais vous poser la question le plus simplement du monde. Depuis, pour la France, le 17 mars, le confinement, qu'est-ce que vous remarquez sur LinkedIn? Est-ce que c'est plus calme que d'habitude? Est-ce qu'il y a plus de mouvement?
Alors, nous avons remarqué plusieurs tendances pendant le confinement et puis sortie de confinement, tout début de sortie de confinement, c'est-à-dire mai-juin. La première phase, la phase de confinement, a été l'occasion pour les professionnels de faire deux choses, de prendre en fait leur destin professionnel en main, selon deux aspects. Le premier, la formation. Nous avons observé une forte augmentation de la consommation des contenus de formation sur un certain nombre de sujets.
Je suis transparent. Je demandais un verre d'eau pour notre invité ce matin.
Merci beaucoup. Augmentation des contenus de la consommation de formation pour les professionnels sur deux aspects. L'ensemble des formations comportementales. Comment est-ce que je passe un entretien d'embauche?
Et ça, ils cherchaient des formations, ils se formaient.
Pendant le confinement.
Absolument. Sur LinkedIn. Vous êtes. Capable de chiffrer cette activité-là, de nous dire combien des membres ont essayé justement de réfléchir à changer de métier ?
Oui, nous avons observé un doublement de la consommation de formation, c'est-à-dire plus de 100%. Une augmentation des conversations également, puisque les professionnels ont pris l'occasion pendant cette phase de confinement pour renouer le lien avec leur réseau, puisqu'on le sait, dans une recherche d'emploi, avoir un réseau et avoir des relations, c'est extrêmement important.
Et c'était l'occasion de réactiver.
Et c'était l'occasion de réactiver ce réseau.
Alors, les cadres, les salariés, les dirigeants ont sans doute un compte chez vous. Les entreprises aussi. Fabienne Arata, est-ce qu'elles recrutent ? Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est que l'emploi ne se fige. Est-ce que c'est bloqué ou est-ce qu'il y a du mouvement ?
Alors, tout au contraire, ce que nous avons observé, et cela dès le mois d'avril, c'est une remontée des taux de recrutement en France en particulier, sur l'ensemble des pays. Mais la France a eu une remontée beaucoup plus accélérée, en particulier que l'Angleterre. Et cette tendance s'est poursuivie jusqu'en juillet. Et nous avons aujourd'hui des taux de recrutement en juillet qui sont très proches des taux anti-Covid. Donc ça, c'est un signe extrêmement positif. La deuxième tendance que nous avons observée concerne l'emploi des jeunes, puisque nos clients ont, pendant la phase de décroissance, ont préserver les campagnes de recrutement sur les alternants
parce
et sur les jeunes.
Une énorme inquiétude sur les jeunes diplômés qui arrivent là en ce moment sur le marché du travail. Vous dites qu'il n'y a pas spécifiquement un sujet chômage des jeunes en ce moment chez vous.
Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet chômage des jeunes, puisqu'on sait bien qu'en France, le taux de chômage des jeunes est plus élevé que dans d'autres pays. En revanche, ce que les entreprises ont préservé, ce sont les embauches des jeunes, ce sont les recrutements des alternants. Ce qu'elles ont considérablement développé également sont les activités de formation et d'intégration justement de ces alternants.
Est-ce que vous voyez, question très ouverte, des cadres qui veulent quitter la ville ? On a beaucoup parlé de ce monde d'après, du cadre supérieur de la défense qui voudrait peut-être s'installer dans le Cher.
Alors, nous avons la capacité chez LinkedIn effectivement de cartographier les flux de compétences et les flux d'emploi sur l'ensemble des bassins d'emploi. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour observer cette nature des flux.
D'accord.
En revanche, c'est vrai que nous avions eu précédemment l'occasion de travailler avec la région Hauts-de-France, par exemple, et on observait avant Covid, le fait qu'un certain nombre de diplômés avaient plutôt une propension à quitter la région dans laquelle ils étaient diplômés.
Ça, c'est un indicateur. Cela dit, en ce moment, c'est presque une question plus philosophique, mais il y a la question de la place du travail dans la société. On le disait, il y a de plus en plus d'absentéisme chez les plus jeunes, de moins en moins l'envie d'être au bureau, les demandes de télétravail, par exemple. Beaucoup de recruteurs, de DRH nous en parlent. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mesurer chez vous ?
Alors, nous mesurons effectivement le télétravail. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'un certain nombre de professionnels souhaitent maintenir une certaine proportion de télétravail dans leur activité. En revanche, il est encore également trop tôt pour pouvoir dire est-ce que ça va considérablement modifier les flux d'emploi et les bassins d'emploi.
Un tout petit peu de politique pour terminer. Le Premier ministre, Jean Castex, qui fixe un objectif à 160 000 créations d'emplois. Dans ce contexte social, le calme avant la tempête, nous disait Nicolas Barré à 7h. Dans le climat aussi, est-ce que c'est crédible ?
Alors, ce qui me paraît extrêmement important, c'est l'emphase qui est mise d'une part sur la formation, puisque l'écart entre les compétences attendues, en particulier les compétences numériques et les compétences dont notre pays dispose, est un sujet majeur pour pouvoir accompagner la transition numérique de l'ensemble
des
entreprises.
Si on y va sur les formations, les reconversions, là on a peut-être un levier pour s'en sortir.
Là, on a un vrai levier. Le second sujet, c'est le sujet de la cohésion sociale, puisqu'on le sait, le déficit politique de relations professionnelles est un sujet extrêmement important. C'est un sujet sur lequel nous travaillons aux côtés de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Fabienne Arata, merci beaucoup. Cet indicateur qu'est LinkedIn ce matin, sur Europe 1, la directrice générale de LinkedIn France, la Country Manager, on le prononce à l'américaine ou à la française ?
On le prononce comme on veut.
Country Manager de LinkedIn France. Merci Fabienne Arata
Merci
d'être
à vous.
Venue nous raconter ces évolutions aussi de la société sur Europe 1 ce matin. Il est 7h48 et à suivre, l'affaire polémique des néonicotinoïdes. Est-ce que la biodiversité s'oppose à la culture de la betterave ? L'édito politique de Nicolas Bétou dans un instant, avant de retrouver Nicolas Canteloup qui, à sa manière, conseille Jean-Michel Blanquer, l'invité d'Europe 1 à 8h15. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 7h51. Très bon réveil à toutes et à tous et bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
L'édito politique de Nicolas Bétou, enfin l'édito politique. Ce matin, vous allez nous raconter une fable.
Une fable dont le titre est « La betterave et l'écolo ». Il était une fois des écolos qui, tout à leur juste combat pour sauver les abeilles, avaient décidé d'interdire pour toujours l'usage des pesticides. En particulier, l'utilisation d'un produit au nom imprononçable, les néonicotinoïdes.
Néonicotinoïdes. Pour simplifier, je crois qu'on a le droit de dire néonix.
Merci Mathieu.
Donc votre fable, Nicolas.
Eh bien la voilà. Une loi fut proposée car les écolos sont influents et les abeilles sont dans leur camp. Et que, croyez-vous qu'il arriva, les néonics furent interdits. Quand le printemps fut venu, le puceron vert du péché, c'est son nom, se trouva fort réjoui. Plus d'insecticides face à lui. Enfin libre de se nourrir à sa guise, il dévora les champs de betteraves jusqu'à en faire disparaître un sur deux. Quelques saisons suffirent. La filière était à genoux, il fallait réagir ou périr.
Et c'est fait, le gouvernement vient de présenter ce projet de loi polémique qui permet de réintroduire l'insecticide néonique.
Et de tenter néonique. De reconstruire un pan entier de notre agriculture, car il y avait péril en la demeure. 45 000 emplois étaient menacés, notre souveraineté alimentaire en danger, plus de sucre de betterave, des importations qui explosent, un désastre.
Bon, mais encore une fois, c'est fait, le gouvernement a mis les pouces.
Sauf que les écolos purs et durs ne l'entendent pas ainsi, cette exception pour la betterave leur paraît annoncer d'autres levées d'interdits. On fustige les reculs du gouvernement, on promet d'autres menaces sur l'environnement. La révolte gronde car le puceron vert du péché garde des alliés. Bon, ce que dit cette fable, c'est que la France tombe dans tous les panneaux. Là où nos voisins européens ont montré du pragmatisme et adapté dès l'origine leur législation, nous avons fait dans le dogmatisme et interdit absolument tous les néoniques. Là où nous étions une grande puissance alimentaire, nous avons mis en danger le maillon clé de notre agriculture et ce gouvernement qui espère créer 160 000 emplois en dépensant 100 milliards d'euros pour la relance, eh bien il était confronté au risque d'en laisser disparaître 45 000 dans les territoires. Un quart des emplois, c'est abyssal. On le voit, c'est un grand danger que l'agriculture et l'écologie soient devenues ennemies.
Moralité ?
Pompili un jour n'est pas Pompili toujours.
Ce qui veut dire, Nicolas.
Eh bien, c'est Barbara Pompili, lorsqu'elle était secrétaire d'État à la biodiversité en 2016, il y a 4 ans seulement,
vrai,
qui a
vrai.
Défendu la loi d'interdiction totale des néonicotinoïdes. Et c'est la même devenue ministre de la transition écologique qui se retrouve bien obligée aujourd'hui de se dédire. Cette inconstance est une des caractéristiques françaises, avec un cycle immuable. Être écolo, mais en faire trop, être fragilisé et reculer. Bon, mais pourvu que cette fable serve de leçon, et en particulier pourvu que tout ce qui sortira de la Convention citoyenne sur le climat ne débouche pas à la fin sur autant de dogmes et de pucerons ravageurs.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Et c'est ce rendez-vous qu'on a dans Europe Matin cette année. Tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Sonia qui va certainement revenir...
Bonjour, pardonnez-moi, c'est Dominique Lormenti. Excusez-moi de vous interrompre, cher monsieur Béliard, mais je voulais me risquer ce matin un petit conseil à Jean-Michel Blanquer.
Mais allez-y, monsieur Strauss-Kahn.
Cher Jean-Michel... Je sais ce que tu es en train de vivre. Tu as récemment, parlons trivialement, pécho une charmante journaliste, tu as fait la couve de Voici, bref, comme on dit dans les courses, tu es sur la montante. Alors tu es ce matin devant ta glace, tu te dis dans 20 minutes, je suis interviewé par une des plus belles filles d'Europe 1. Est-ce que je ne pousserai pas un petit peu plus ma chance avec elle aussi ? Je connais cette sensation, cher Jean-Michel, de toute puissance du sex appeal. On se sent pousser des ailes, alors tu te demandes ce matin quelle chemise tu vas mettre, tu mets du sang bon, tu te parfumes à outrance, tu te coiffes avec une éponge, tu as mis ton plus beau costume, bref, on l'a tous fait. On l'a tous fait avant une interview de Sonia Mabrouk, c'est bien naturel.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
À mon petit conseil, Jean-Michel, n'y va pas. N'essaye pas, tu vas tout gâcher. Tu as déjà réussi un coup inespéré avec Anna Cabana. Ne va pas tout foutre en l'air pour une pulsion. Regarde-moi où j'en suis. Donc, pas de faute. Ne va pas chez le fleuriste, pointe-toi même ce matin avec un vieux pull, soit limite mal poli, voire goujat. C'est le meilleur moyen de protéger ton couple. Sois raisonnable, Jean-Mimi.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui va conseiller tous les matins à sa manière l'invité politique de la matinale. Sonia Mabrouk reçoit donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à 8h15. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Profitons de cette journée. Cette journée sera ensoleillée.
J'y comptais bien, Laurent. J'y comptais bien.
Ça ne m'étonne pas de vous. Donc cette journée sera vraiment ensoleillée, agréable, avec des températures de 23 à 34 degrés. 33 pour l'arrivée du Tour de France à Lavore, 32 à Clermont-Ferrand, 29 à Paris, où l'on fait déjà 20, 23 degrés à Caen. Bref, c'est une journée ensoleillée, chaude, sauf près de la côte des côtes de la Manche et de la mer du Nord, où nous avons là des passages nuageux, avec parfois quelques bruines. Et malheureusement, ça va rester en l'état sur une centaine de kilomètres en bord des côtes, toutes les régions qui bordent la côte. Demain samedi, soleil sur toute la moitié sud, mais sur la Manche, toujours elle, Champagne-Ardenne, région parisienne, Poitou-Charentes et surtout Lorraine-Alsace et Bourgogne, Bourgogne côté Dijonais, toutes les régions que je viens de citer, les nuages seront parfois menaçants avec peu d'ondées. Et puis dimanche, sur la moitié nord, un ciel très nuageux. Eh oui, ça change, la journée, avec quelques gouttes de pluie peut-être. Et puis sur la moitié sud, beaucoup moins de soleil. Bon, ça sera pas terrible le congé de fin de semaine. Hein. Et pour tout le monde, les températures vont baisser. Poum,
poum, c'est le bruit que ça fait poum, quand ça baisse. Poum. Merci Laurent Cabrol, c'était la météo.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, on écoute le monde changer. Il est 8h.
Les chiffres sont clairs, la délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays depuis 10 ans.
Les chiffres sont-ils si clairs, comme le dit Éric Dupond-Moretti ? Délinquance stable ou ensauvagement, pour reprendre le terme de son collègue Gérald Darmanin ? Europe 1 s'est plongé dans les chiffres, l'enquête précise du service police-justice dans un instant. Et les violences commises par la police ? Alors, un journaliste infiltré parmi les forces de l'ordre dénonce des insultes et un tabassage. L'IGPN est saisi. Sécurité, laïcité, lutte contre le communautarisme, début d'une offensive très régulière. Pour Emmanuel Macron au Panthéon aujourd'hui. L'Europe n'a pas de pétrole, mais elle a du lithium, paraît-il. Bientôt l'autosuffisance, promet Thierry Breton. Et puis eux, ont Hollywood, mais reportent des centaines de tournages. Les géants américains du 7e art envisagent de privilégier les plateformes en ligne plutôt que les salles de cinéma à l'avenir.
Juste après ce journal, semaine de rentrée, des écoles fermées, oui, mais combien ? Ce sera avec Jean-Michel Blanquer au micro de Sonia Mabrouk à 8h15, avec également ce débat au sein même du gouvernement sur l'insécurité. C'est une voix qui compte dans la majorité, Jean-Michel Blanquer tout à l'heure. Après 8h30, notre santé, notre planète, avant la revue de presse, Nicolas Canteloup avec Julie, à 9h moins le quart. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Entre le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, on n'est manifestement pas d'accord sur le choix des mots ni sur le constat des faits. Simple sentiment d'insécurité ou violence en hausse quand la droite parle d'explosion de la délinquance.
Les termes, les mots des politiques se retrouvent-ils dans les statistiques ? Vous les avez décortiqués, Guillaume Bié. Les données de la police et de la gendarmerie, bien plus nuancées.
Oui, prenez par exemple les crimes, disons, parmi les plus graves, les meurtres et les violences qui ont entraîné la mort. Eh bien, cet été, en juillet, il y en a eu moins qu'en juillet 2019. Et si on prend un peu de recul sur les 12 derniers mois, ce nombre d'homicides augmente, oui, de 5% seulement. En ce qui concerne les agressions physiques, elles sont en hausse, c'est vrai, plus 8% sur un an, c'est une augmentation significative, mais pas une explosion. Et c'est une hausse qui n'est pas nouvelle, ce type de violence augmente continuellement depuis 3 à 4 ans, avec une forte accélération en 2019. Mais forcément, dans ces chiffres, il y a toutes les violences physiques lors des manifestations. Donc voilà pour le nombre d'agressions. La question, c'est l'intensité de ces violences, et ça, aucun outil ne le mesure, c'est uniquement du ressenti, avec toute une part d'émotion et d'irrationnel. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que le sentiment d'insécurité qui est mesuré chaque année, eh bien, il est stable depuis 10 ans.
Alors justement, depuis 10 ans, la délinquance des mineurs n'a pas augmenté. C'est ce que martelait encore mercredi le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Est-ce que c'est vrai ?
Non, c'est pas aussi simple que ça. D'abord, la délinquance des mineurs, ça veut rien dire. C'est comme additionner un vol à l'étalage et un homicide, ça n'a pas de sens. Le ministre de la Justice parlait surtout des mineurs arrêtés pour des violences, pour des agressions. C'est vrai qu'il y en a nettement moins qu'il y a 10 ans, même si la tendance augmente légèrement entre 2016 et 2018, selon les derniers chiffres disponibles. En revanche, sur cette même période 2016-2018, bien le nombre de mineurs soupçonnés de meurtre a triplé. Sur les tentatives de meurtre, si on regarde depuis 2009... Là, le nombre de mineurs mis en cause a été multiplié par 4. Et sur les violences sexuelles, ça a doublé entre 2011 et 2018. Donc vous le voyez, en fonction du type de délinquance dont on parle, les tendances ne sont pas les mêmes et certaines sont bel et bien en forte hausse.
Enquête signée Guillaume Biais du service police-justice d'Europe.
Dans ce contexte déjà tendu, il y a ce livre publié hier, Flic, un journaliste a infiltré la police.
L'auteur Valentin Gendreau avait déjà travaillé comme ouvrier à la chaîne et comme salarié dans la grande distribution, toujours pour des enquêtes journalistiques. Il a passé 2 ans dans la police parisienne. Invité ce matin à 6h40 sur Europe 1, il décrit le manque de moyens, le mal-être de beaucoup de policiers, mais il dénonce aussi des faits de violence, des insultes racistes et homophobes. Tout le monde se couvre, dit-il, parce que dans la police, on ne balance pas.
La réaction ce matin du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Potier.
Il y a un certain nombre de difficultés qui sont bien connues dans la police, à la fois des problématiques de moyens, d'équipement. Il y a eu aussi des efforts qui ont été consentis de manière substantielle par le ministère de l'Intérieur. Après, je pense que l'auteur se focalise sur une situation dans un commissariat donné avec une infiltration dans un métier particulier qui est celui des adjoints de sécurité. Et donc, moi, je considère que ce qui a pu être vécu par ce journaliste, c'est pas non plus la réalité complète des missions qui sont effectuées par l'ensemble des policiers français partout sur le territoire national. Si les faits sont avérés, ils sont évidemment extrêmement graves et c'est ce qui a suscité le fait que le préfet de police saisisse et la justice et l'IGPN. Donc maintenant, il faut que toute la lumière soit faite sur ces affaires-là.
Frédéric Potier avec Nicolas Feldman.
La sécurité, il en sera de nouveau question dans les prochains jours avec plusieurs initiatives de l'exécutif. Après la relance économique, c'est bien sur ces questions régaliennes qu'Emmanuel Macron veut avancer.
Et pour ça, dès aujourd'hui, il va s'appuyer sur une vieille dame, la République. Le président va célébrer les 150 ans de sa proclamation lors d'un discours au Panthéon dans 2 heures. Adrien Beck.
Poser le cadre avant d'aller dans le détail. Voilà ce que va faire Emmanuel Macron ce matin face aux grands hommes. Un discours ramassé pour rappeler ce que la République doit aux Français, mais aussi ce que les Français doivent à la République, dixit l'Élysée. Rappeler les valeurs, laïcité, intégration, lutte contre les séparatismes. L'introduction de 15 jours où Emmanuel Macron va prendre à bras le corps tous ces sujets. Un déplacement sur l'égalité des chances la semaine prochaine avant un séminaire gouvernemental à l'Élysée, largement consacré à la sécurité. Darmanin et Dupond-Moretti peuvent s'agiter, mais là, il faut la parole du président. Il joue son bilan, analyse un conseiller ministériel. Le communautarisme devrait aussi faire l'objet d'un déplacement présidentiel avec des annonces mi-septembre. En Macronie, beaucoup sont persuadés que les sujets régaliens seront la clé de la présidentielle de 2022. D'ici là, le temps est compté, s'inquiète un conseiller. Il ne faut pas se leurrer, dit-il. C'est pas en 1 an et demi qu'on va arriver à tout changer.
La relance économique, elle, est française, mais elle est aussi européenne. 40 milliards sur les 100 détaillés hier viennent de Bruxelles, qui pousse, elle aussi, pour que l'avenir soit plus vert.
Le problème, Isabelle Horry, c'est que les nouvelles technologies sont très gourmandes en matières premières rares.
Oui, car nos besoins en lithium, par exemple, vont être multipliés par plus de 50 d'ici 30 ans. C'est un composant essentiel des batteries électriques, des voitures et des vélos. Actuellement, on l'importe surtout du Chili. Les 17 métaux que l'on appelle les terres rares, utilisés aussi bien pour le solaire et l'éolien que dans les puces électroniques, viennent, eux, à 98% de Chine. Réduire la dépendance de notre industrie vis-à-vis du reste du monde est donc devenue une priorité. C'est le sens de la stratégie présentée par le commissaire européen Thierry Breton.
On est en train de revoir l'ensemble de nos alliances. On est en train de revoir aussi sur l'ensemble du territoire de notre continent nos propres ressources. Prenez l'exemple du lithium. On a identifié des ressources assez abondantes donc autour de la vallée du Rhin. On en a vu évidemment en Espagne. On a la capacité dans les 4-5 ans qui viennent, 5 ans, à être quasiment presque autosuffisant pour pour nos besoins et notamment pour la stratégie batterie.
Sur le bureau du commissaire, la carte de l'Europe est couverte de petits symboles, les gisements de ces matières premières critiques dans notre sous-sol. Il va falloir trouver des manières de les extraire en respectant l'environnement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces matériaux se recyclent bien. Les plans de relance des États doivent aussi servir à financer tout cela.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Panne de courant hier soir pour 270 000 foyers en Haute-Vienne, en Creuse, en Indre et en Corrèze. Il s'agissait d'un incident dans un poste électrique selon RTE qui a annoncé une résolution de la panne vers minuit. Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Le dernier combat de cet homme dont vous entendiez le témoignage sur Europe 1 il y a quelques jours et qui veut arrêter de prendre ses traitements ce soir. Et puis le cinéma américain cherche, lui, sa résilience alors que 300 tournages de films ont été reportés. A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier. Vous avez entendu son témoignage la semaine dernière. Cet homme, Alain Coq, atteint d'une maladie orpheline incurable qui voulait une autorisation du président de la République pour recourir à un sédatif et mettre fin à ses jours.
Il a pu s'entretenir avec la conseillère santé d'Emmanuel Macron, mais il n'a toujours pas de réponse.
Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour me rappeler. Ensuite, j'arrêterai toute hydratation, toute alimentation, tout traitement hormis les soins antidouleurs, sachant qu'à tout moment, la présidence peut intervenir pendant la durée de ce protocole et me dire « on vous accorde ce droit à partir dans l'adulté ». Or, ce droit que je demande, il est simple. Je demande à ce qu'un médecin puisse me prescrire un médicament qui soulagera définitivement mes douleurs et que je prendrai moi-même. Ça entraînera mon décès dans les dizaines de secondes qui suivent. Il faut savoir que le SAMU m'a récupéré 10 fois en urgence absolue alors que j'étais déjà sur le chemin de la mort. Donc, selon l'ordre naturel des choses, je devrais être mort.
Le témoignage d'Alain Coq, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock.
Aux États-Unis, Joe Biden a répondu hier soir à des questions d'électeurs américains. C'était dans une église de Kenosha, la ville de Jacob Blake, l'homme blessé par les balles d'un policier il y a 10 jours.
Le racisme sous-jacent qui est institutionnalisé aux États-Unis existe toujours. Il existe, dit-il, depuis 400 ans.
Les Américains, qui sont privés cette année du festival du film de Deauville, dédié justement au cinéma des États-Unis.
Le festival a bien lieu, il démarre aujourd'hui, mais sans les stars comme Michael Douglas qui devait faire le déplacement. C'est à l'image en fait de l'industrie du cinéma d'outre-Atlantique, presque totalement à l'arrêt depuis plusieurs mois. Pour combien de temps? Réponse de Mathieu Charrier.
Le report des tournages des suites de Star Wars et Avatar résume la crise que traverse Hollywood. Au moins 300 tournages de films américains ont déjà été repoussés. Il faut dire que très peu de spectateurs vont dans les salles en ce moment outre-Atlantique. En temps normal, les studios américains engrangent des centaines de millions de dollars chaque semaine, chiffre tombé à 8 millions seulement la semaine dernière. Conséquence, l'usine à rêve ne tourne plus et les plans sociaux se multiplient. Warner a déjà annoncé supprimer 600 postes. NBC Universal devrait licencier 3500 personnes. La fin d'un modèle, affirme Vincent Cassel, qui tourne régulièrement pour le cinéma américain.
Il y a un changement qui est en train de s'opérer, un changement radical. On arrive au bout d'un système de production, de regarder les films. Qu'est-ce que c'est qui remplace les entrées aujourd'hui? C'est les vues, c'est les likes. C'est... Donc tout ça est en train de changer. Mais ça ne veut pas dire que ça meurt. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant.
D'ailleurs, pendant le confinement, plusieurs films américains sont sortis directement sur les plateformes, sans passer par la salle, que ce soit Mulan ou même Les Troll numéro 2 qui a engrangé en VOD 100 millions de dollars en moins d'un mois, le PDG d'Universal déclarant réfléchir désormais à des sorties simultanées en salle et en VOD.
Vous avez entendu Mathieu Charrier qui nous parle de l'usine à rêve à l'arrêt pour parler d'Hollywood. C'est chic.
Merci. Oui, c'est joli, l'usine à rêve. Et ceux qui choisissent plutôt la VOD que les salles de cinéma, je ne sais pas. C'est plus un débat. On verra. Merci beaucoup. François Geffrier, il est 8h13 sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quelques jours après la rentrée scolaire, quel premier bilan d'étape? Comment enseignants, parents et élèves vivent ces premiers jours d'une rentrée très particulière? Notre invité, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
8h14, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Bienvenue à vous et bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Comment qualifiez-vous cette première semaine de rentrée scolaire ?
Écoutez, c'est plutôt une bonne semaine, même si il y a évidemment toujours des problèmes à noter, mais quand on pense à tout ce qui se disait avant la rentrée scolaire, il y avait beaucoup de gens qui craignaient cette rentrée. Moi, je pense qu'elle devait se faire, et aujourd'hui, on voit bien que plus de 12 millions d'élèves sont rentrés, les professeurs sont là, les élèves sont là, et malgré toutes les difficultés de préparation liées même au confinement et au déconfinement. Et malgré parfois les peurs qui peuvent exister dans notre société, bien, tout le monde est rentré et ça me réjouit beaucoup parce que l'école, c'est fondamental dans la vie et une société ne peut pas se permettre de vivre sans école.
Une bonne semaine, hein, si on vous entend ce matin, malgré, vous l'avez rappelé, les inquiétudes, le climat anxiogène également, Jean-Michel Blanquer. On peut quand même parler même de notion de bonheur, de retrouvailles, c'est aussi ça l'école.
Bien sûr, n'ayons pas peur d'utiliser le mot bonheur dans la période actuelle. Il y a eu un véritable bonheur mardi de se retrouver, de se réunir. De se retrouver, donc on connaît ce bonheur classique de se retrouver pour la rentrée. Je pense que ce bonheur a été décuplé précisément parce qu'il a fallu dépasser des obstacles, aussi bien à l'échelle collective de notre nation qu'à l'échelle personnelle de chacun. Et cette sensation d'avoir dépassé un obstacle pour trouver un bonheur auquel on tient et qui a beaucoup de valeur, c'est important. Et donc oui, il y a un bonheur de rentrer.
Bonheur et contrainte, défi, soyons concrets ce matin. Comment ça se passe, par exemple, dans une petite classe? Comment on apprend, Jean-Michel Blanquer, au plus petit, avec un masque? Comment on apprend des mots sans voir les lèvres, tout simplement?
Alors d'abord, l'apprentissage des gestes mêmes. Ce qui est important, c'est de dire à quel point cet épisode sanitaire a créé des réflexes dont certains sont positifs. C'est-à-dire qu'il y a du civisme, il y a aussi plus d'hygiène. Et j'espère que ce sera un acquis post-Covid aussi, que ces réflexes-là. Et par ailleurs, les contraintes sur l'apprentissage en général liées au masque en particulier sont réelles. C'est moins bien de parler avec un masque que de parler
surtout
avec un masque.
Surtout pour les plus petits.
Mais ce que l'on voit, alors d'abord, c'est que s'agissant donc des élèves du primaire, comme vous le savez, ils n'ont pas de masque, mais leurs professeurs en ont un. Et ça peut être gênant, mais en même temps, dès les mois de mai et juin surtout, on avait une sorte d'expérience de cela. Et on a vu que c'était possible et les professeurs se sont accoutumés à cela. Je me souviens de visites que je faisais en mai et juin qui m'ont permis déjà de me faire une idée de la contrainte relative que cela
représentait. Et aujourd'hui, en septembre, les remontées que vous avez sont plutôt positives. Vous n'êtes pas en train d'enjoliver le tableau?
Non, je n'enjolive pas. D'ailleurs, ça se saurait, vous savez, c'est non enjolivable, parce qu'il y a toujours des voix pour critiquer ou contester si je disais quelque chose d'erroné sur une telle chose. Non, il y a de la part des professeurs, que je veux vraiment saluer, une capacité à agir et à professer malgré la contrainte.
Et à s'adapter malgré tout, ici et là, Jean-Michel Blanquer, des classes ferment à cause de cas de Covid. À l'heure actuelle, combien de classes et peut-être même d'établissements ont été fermés en France ?
Alors, il y a en métropole 12 établissements, enfin 12 structures, c'est-à-dire écoles, collèges ou lycées, qui sont fermées aujourd'hui, à rapporter aux 60 000, plus de 60 000 écoles, collèges et lycées qui existent en France. Donc, c'est un chiffre petit. À La Réunion, nous en avons environ 10 aussi. Donc, en tout, ça fait 22. Et les protocoles à La Réunion fonctionnent bien. S'agissant des classes, c'est autour d'une centaine de classes. Ça varie évidemment chaque jour. Et nous déclenchons à peu près 250 protocoles par jour, c'est-à-dire 250 suspicions de Covid. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'évidemment, les suspicions de Covid qui peuvent exister, elles sont liées à des facteurs externes à l'école, à des personnes qui souvent avaient pu être éventuellement contaminées avant la rentrée ou dans leur vie personnelle.
Bien sûr. Et pour ceux qui nous écoutent, je pense aux parents, quelle est la procédure précise quand un élève est testé positif? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il se passe pour l'école ce qui se passe dans le reste de la société ou dans d'autres structures, c'est-à-dire que d'abord, la personne est immédiatement isolée. On lui demande de rester chez elle si elle est chez elle au moment où
élève ou enseignant.
Élève ou enseignant, quelle que soit la personne. Et puis ensuite, ce sont les autorités sanitaires qui ont la main pour déclencher le protocole, et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours à chaque fois, c'est-à-dire il y a immédiatement une investigation qui est faite pour savoir quels sont les cas contacts, les tests sont faits, et ensuite des mesures sont prises nécessaire. S'il y a plus de 3-4 Covid, ça déclenche la plupart du temps une fermeture de la structure.
C'est une règle, plus de 3-4 Covid, fermeture d'une structure.
Les autorités sanitaires font preuve de discernement et de souplesse, puisque chaque cas est un cas particulier, mais généralement c'est 3-4 Covid qui déclenche une fermeture.
Alors on pense aussi aux parents, hein, qui ne sont pas forcément en télétravail et qui vont récupérer en journée les enfants. Est-ce que pour ces parents, Jean-Michel Blanquer, ils pourront être arrêtés pour garder leur enfant en cas de fermeture de classe ?
Écoutez, quand il s'agit d'un enfant isolément, il s'applique ce qui se passe de manière habituelle de par la législation pour avoir la possibilité de garder son enfant. Mais surtout, s'il devait y avoir des phénomènes amples dans le futur, c'est-à-dire un nombre important de fermetures d'écoles, de collèges ou de lycées, on déclencherait un protocole permettant d'aider les familles si ça devait s'installer dans la durée.
Concrètement, ça veut dire quoi? Des modes de garde, alternatifs?
Mon objectif, si vous voulez, c'est que tout au long de cette année 2020-21, les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante, notamment le travail, par une quelconque fermeture.
Mais si je vous entends bien ce matin, matin, vous préférez qu'il y ait ces modes de garde alternatifs plutôt que des arrêts de travail et des congés payés.
Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Par ailleurs, il y a plusieurs choses à dire sur une telle question. La première, c'est qu'on a un protocole de continuité pédagogique. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a fermeture d'une classe ou d'une école, l'enfant n'est pas dans l'oisiveté. Il y a immédiatement quelque chose qui
se déclenche. Ça veut dire que vous avez appris des carences d'il y a quelques semaines, quelques mois.
Oui, des carences et aussi des réalisations. Hein, bien sûr, des carences. Vous savez, sur les carences de mai-juin, j'invite chacun à faire une comparaison européenne aujourd'hui. D'ailleurs, sur la rentrée, j'invite chacun aussi.
Quand on se compare, on se console aujourd'hui.
Largement. Si vous voulez, on a parlé de la rentrée tout à l'heure. Regardez les rentrées scolaires dans les autres pays. C'est dans certains, c'est un enjeu de crise de la société. Donc, et ce que nous avons fait en mai et juin nous a bien préparé à faire la rentrée de septembre. C'est pourquoi il fallait faire ce qu'on a fait, même si c'était dur. Et on peut parler de carences, bien sûr. Et on apprend et de ses limites et de ses réalisations. Il y a eu aussi des réalisations en mai-juin qui nous permettent aujourd'hui de nous entraîner sur la continuité pédagogique. Donc concrètement, ça veut dire déclenchement de ma classe à la maison, du CNED, et puis nous avons enregistré des centaines d'heures de cours qui peuvent être utilisées le cas échéant.
Mais concrètement, s'il n'y a pas de solution locale de garde, il pourrait y avoir des aides spécifiques aux parents. Est-ce que vous y travaillez ?
Oui, tout à fait. C'est un...
Quelle piste ?
La piste serait que les parents gardent... C'est des parents qui seraient obligés d'avoir l'enfant à la maison et qui, par ailleurs, travaillent, pourraient être aidés pour les gardes d'enfants à la maison. Par ailleurs, nous continuons aussi à développer les dispositifs qui permettent d'accueillir les enfants dans un autre cadre et dans un cadre qui soit éducatif.
Jean-Michel Blanquer, sur un autre sujet éminemment important et régalien, celui de la sécurité, parler d'ensauvagement, c'est développer le sentiment d'insécurité, a dit le garde des Sceaux à ce micro. C'est un sentiment pour vous, l'insécurité ?
Non, l'insécurité, c'est d'abord une réalité, puis après, chacun éprouve des sentiments par rapport à cette réalité, mais c'est et une réalité et un sentiment. Donc ça ne peut pas être réduit seulement à l'un ou seulement à l'autre. Donc le sujet sémantique n'est pas le sujet le plus important.
Mais vous n'avez pas de pudeur à parler d'ensauvagement. Vous êtes connu pour dire les mots, généralement. Vous
oui,
le dites.
Mais je pense que les mots, justement, doivent être... pleinement bien choisi. Donc,
il est
ça
mal
sert
choisi
à rien.
Celui-ci.
Écoutez, la réalité à laquelle on renvoie, c'est-à-dire la vérité de l'insécurité que beaucoup de personnes
et pas
ressentent
le sentiment,
pour de vrai.
Donc, si je vous entends
donc,
bien.
Donc la réalité de l'insécurité est une chose tellement importante et tellement grave que ça ne mérite pas qu'on dépense de l'énergie sur des querelles sémantiques.
Mais ça mérite qu'on pose le bon diagnostic.
Exactement, ça mérite qu'on pose le bon diagnostic et donc en effet de dire les choses. Et dire les choses, c'est que notamment on doit éviter l'impunité dans notre société. Les règles doivent être posées. Et quand on commet quelque chose de mal, eh bien on doit évidemment être sanctionné.
Mais je vais vous poser de nouveau la question. Vous n'avez pas de pudeur à utiliser ce mot d'ensauvagement ?
C'est vraiment pas mon mot préféré parce que je le trouve flou.
Je ne vous demande pas si c'est le préféré, est-ce que c'est la réalité ?
Par optimisme, je préfère ne pas l'utiliser. C'est-à-dire, je ne considère pas que notre société est fatalement ensauvagée. Je considère qu'il y a des gens qui ont des comportements qui ne vont pas et que dès le plus jeune âge, nous devons avoir une approche très éducative, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé un plan anti-violence à l'école. Le facteur éducatif est le premier des facteurs.
Vous êtes également
à la fois
ministre
par
la de la jeunesse,
responsabilité des familles et par le travail de l'école.
Éducation et prévention, et puis surtout répression également.
Oui, bien sûr, c'est toujours un cocktail. Vous savez, quand vous êtes parent, vous savez parfaitement faire cela, c'est-à-dire à la fois être plein de bienveillance et plein d'exigences. Bien, vis-à-vis de l'enfance et de l'adolescence, on doit avoir ça aussi dans la société, c'est-à-dire ça doit être éducatif, mais on ne doit pas laisser des actes répréhensibles.
Mais
sans...
vous ne prononcez pas le nom ce matin.
Oui, en fait, en tout cas, j'ai pas de fétichisme sur ce mot, tout simplement.
Et pas de tabou non plus ?
Pas de tabou non plus, bon. Enfin voilà, sans fétiche ni tabou.
En ce jour des 150 ans de la République, Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron va prononcer un discours au Panthéon. Qu'est-ce qui menace, selon vous, le plus la République et ses valeurs aujourd'hui ?
Je pense que ce qui menace la République, c'est deux choses. C'est l'individualisme, donc l'absence de civisme, et puis d'autre part, toute vision du monde qui veut s'imposer à la République, qui veut se mettre au-dessus de la République. Donc, on pense souvent aux religions, évidemment, ça peut être d'autres choses, mais il est évident que l'islamisme fondamentaliste est une menace évidente dans notre monde, pas seulement en France, à l'échelle internationale aussi, que ça, il faut savoir nommer ce problème, et il faut surtout dire à quel point la République est le projet de société pertinent pour le 21e siècle.
Il faut le dire, alors que les défis sont importants, comment vous avez réagi au sondage IFOP pour Charlie Hebdo indiquant que 26% des Français musulmans entre 15 et 24 ans n'expriment pas de condamnation à l'égard des auteurs des attentats ?
De deux façons. D'abord, en considérant que ce chiffre est grave, évidemment, et renvoie à ce que je disais juste avant. Donc, nous devons être conscients de ce problème, le regarder et le traiter. Avoir un discours volontariste sur la République. La République n'est pas sur la défensive, elle est à l'offensive. Autrement dit, elle affirme ses valeurs et elle les applique au quotidien. Par ailleurs, ce chiffre ne m'a pas tellement surpris, parce que d'autres enquêtes précédentes montraient qu'en gros, on avait ce chiffre de 26-28% de nos concitoyens musulmans qui sont tentés par les théories radicales. N'oublions pas que ça fait 72% qui ne le sont pas. Et c'est sur ce 72% qu'on doit compter pour montrer que, eh bien, toute religion peut bien vivre dans la République,
oui,
dès lors que les règles de la République sont respectées.
Vous m'avez dit, il faut un discours volontariste, mais je suppose, monsieur le ministre de l'Éducation, que vous avez lu le livre intitulé « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » de l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, qui détaille tous les coups de canif à la laïcité et qui parle d'une passivité, peut-être même d'une complicité du système.
Alors, je connais bien ce qu'écrit Jean-Pierre Aubin, et il a fortement raison sur bien des points. Simplement, ce qu'on voit tout à fait aussi dans ce qu'il écrit, c'est que justement, depuis 3 ans, nous avons agi sur ces questions. Et à l'école, nous avons fait beaucoup. Nous avons établi des normes de référence, nous avons créé un conseil des sages de la laïcité qui a établi ces normes. Et ensuite, nous avons agi à partir de ces normes avec des équipes Valeurs de la République qui interviennent dans les établissements. J'ai aussi envoyé un message à tous, qui doit être toujours très clair, qui est qu'à chaque fois qu'une violation de la laïcité existe dans notre système scolaire, elle doit être signalée et il y a une réponse concrète avec tout simplement ces équipes qui interviennent dans les établissements. Donc nous avons maintenant, nous ne pouvons en aucun cas être accusés de mettre les problèmes sous le tapis, ni même de ne pas être clair. Nous regardons les problèmes, nous les recensons, nous les remontons et nous réagissons. Et par ailleurs, le discours est totalement clair sur les valeurs de la République. Donc ce que dit Jean-Pierre Aubin est juste sur la durée. Il a raison de dire qu'il y a eu du retard à l'allumage, si je puis dire, une forme de passivité, parfois involontaire. L'institution a parfois été malhabile sur ces questions. Elle a été questionnée, mais maintenant, ça n'est pas le cas. Et nous agissons. Je ne dis pas que la réalité est pure et parfaite, loin s'en faut. Il y a une pente à remonter, mais nous la remontons.
Et les menaces sont grandes, les défis importants. On notera aussi que vous êtes ministre de la Jeunesse, donc l'importance aussi de la jeunesse dans le plan de relance. On aura l'occasion d'en reparler.
C'est très important, parce que nous allons consacrer beaucoup de moyens au sujet de la jeunesse, de la formation professionnelle en particulier, et puis de toute une série de projets pour l'éducation qui sont importants, mais ce sera l'objet d'une autre émission.
Merci Jean-Michel Blanquer, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk. Dans un instant, l'info, le journal du Tour et la météo. À tout de suite.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h32 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Jean-Michel Blanquer était l'invité d'Europe 1. Il y a quelques minutes, le ministre de l'Éducation annonce que depuis la rentrée, 12 établissements ont dû fermer dans l'Hexagone pour cause de suspicion de Covid. 10 autres établissements sur l'île de la Réunion, autour d'une centaine de classes au total. On peut désormais vraiment parler de cluster au PSG. 6 joueurs ont été testés positifs au Covid. Neymar, Paredes et Di Maria, et maintenant, selon l'équipe, Icardi, Navas et le capitaine Marquinhos. Tous reviennent de vacances à Ibiza. C'est l'incertitude sur la tenue du match contre Lens la semaine prochaine. Un cas aussi chez les Bleus, le deuxième gardien Steve Mandanda quitte Clairefontaine ce matin. Il ne jouera pas les matchs de Ligue des Nations demain en Suède et mardi face à la Croatie. Emmanuel Macron au Panthéon, le chef de l'État prononce ce matin un discours sur les 150 ans de la proclamation de la Troisième République. Il devrait lancer un message contre les tentations séparatistes, notamment celui de l'islam radical. 2 millions d'euros, c'est la somme récoltée par la Fondation de France pour aider le Liban. Un appel aux dons avait été lancé début août après la terrible explosion de Beyrouth et ses 190 morts. Une méga panne d'électricité hier soir dans 4 départements, Haute-Vienne, notamment Limoges, Creuse, Indre et Corrèze. Près de 300 000 foyers touchés. L'incident sur un poste électrique a été réparé vers minuit. Et puis c'est ce soir que s'ouvre le festival du cinéma américain de Deauville. Les stars n'ont pas pu faire le déplacement des États-Unis, mais les Français sont au rendez-vous. La présidente du jury, Vanessa Paradis, mais aussi Catherine Fro, Mai Wen ou Benoît Poelvoorde. Au total, 70 films seront projetés, dont 9 qui auraient dû être présentés à Cannes.
Merci Hélène Zélani. 8h33, on part sur les routes du Tour de France.
Tout de suite, retrouvez le journal du Tour avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et le journal du Tour, c'est avec vous, Marguerite Lefèvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On attendait du spectacle. Hier, le profil de l'étape s'y prêtait, mais au final, les coureurs sont restés très sages.
Oui, sur le papier, cette arrivée au sommet du Montégoal dans les Cévennes promettait pas mal de rebondissements. Eh bien, en réalité, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent hier. Derrière le vainqueur du jour, Alexei Loutsenko, les favoris se sont regardés. Le seul qui a tenté sa chance, c'est une nouvelle fois Julien Alaphilippe. Il a tenté d'attaquer dans les tout derniers mètres. Son coéquipier Rémi Cavagna, le sent prêt à gagner une nouvelle étape sur ce tour.
On était un peu déçus qu'il perde le maillot. C'était pas voulu, c'est comme ça, c'est une erreur. Et au final, ben, ça va le libérer, il est en forme et je pense qu'il va nous surprendre bientôt. Il était serein, je l'ai senti calme et déterminé. Moi, je suis sûr qu'il va en gagner d'autres, peut-être une, peut-être deux, donc il est en forme, donc faut qu'il continue comme ça. Mais bon, là, il avait dit dès le début du tour, il n'allait pas pour le maillot jaune, donc on verra, il va gagner des étapes, j'espère, et en tout cas, on va tout faire pour.
Au classement général, le Britannique Adam Yates est toujours leader. Le premier français, c'est Guillaume Martin. Il est quatrième et pointe à 9 secondes du maillot jaune.
Au programme aujourd'hui, 168 km entre Millau et Lavaur dans le Tarn.
Oui, c'est une étape de transition, comme on les appelle, des étapes sans grande difficulté qui permettent aux coureurs de se reposer un peu, aux sprinteurs de s'exprimer. Et puis ça permet aussi, évidemment, de passer d'un massif à un autre. Les coureurs s'élanceront de Millau à 13h25. Ils vont rouler vers les Pyrénées. Ils vont passer sous le fameux viaduc jusqu'à Lavaur dans le Tarn, arrivée prévue aux alentours de 17h30.
Étape du jour à suivre en fil rouge sur Europe 1. Merci Marguerite Lefebvre, c'était le journal du Tour.
La passion du vélo à chaque étape, c'était le journal du Tour avec Total Direct Énergie. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le temps avec vous Laurent Cabrol.
Dans le Tarn, à Lavaur justement, ça va cogner. Hein. 33 degrés cet après-midi.
C'est pas un temps à faire du vélo.
Non, j'ai regardé la télé, oui. Écoutez,
à l'ombre.
Alors, en ce qui concerne les températures, je disais 33 à Lavaur, parce que c'est tout près de Toulouse. Entre Lavaur, Toulouse, 33 degrés, 34 à Bordeaux, 32 à Lyon, 31 à Bourges, 30 à Dijon, 29 à Paris, 28 à Marseille, 27 à Nantes, 23 à Caen. Enfin bref, voilà, des températures d'été. C'est une des températures qui ne doit pas vous surprendre. Ce sera la journée la plus agréable si vous aimez la chaleur, en tout cas la plus chaude de la semaine. Dès demain, les températures vont commencer à baisser. Dimanche, il fera un petit peu plus frais. J'en profite pour vous dire quand même que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'intempéries majeures. Ceux qui attendent la pluie seront déçus, ceux qui n'en veulent pas seront contents, mais il n'y aura pas d'intempéries importantes, ni même beaucoup de pluie de la semaine prochaine. Donc, on continue à avoir un temps sec. Une petite parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, il brune à l'heure où nous parlons, et il continuera de bruner une bonne partie de la journée.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h36, dans un instant, un tout petit instant, on prend soin les uns des autres sur Europe 1. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. La campagne de vaccination contre la grippe qui commence le mois prochain. Est-ce qu'il faut se faire vacciner? Les réponses du médecin d'Europe 1. Notre planète avec Fanny Agostini. Et bien sûr, Nicolas Canteloup avec Julie pour la revue de presse à 9h15. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et c'est votre rendez-vous, votre consultation, si j'ose dire, avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Les laboratoires Sanofi et GSK annoncent commencer les tests sur l'homme pour leur vaccin contre le Covid-19. Mais ce matin, vous avez souhaité revenir sur la vaccination contre la grippe. Est-ce qu'il faut se faire vacciner d'ailleurs cette année, Jimmy?
Alors pour ce qui est des personnes fragiles, évidemment oui, puisque les personnes qui vont faire des formes graves de Covid sont exactement les mêmes que celles qui vont faire des formes graves de grippe. Elles ont le même profil, elles sont à risque de complications, surtout qu'au on a tendance à l'oublier, mais la grippe tue aussi. Dans le monde, c'est 1 milliard de cas et 300 à 600 000 décès attribués à la grippe. Alors, l'idée aussi, c'est d'éviter une double épidémie cet hiver, d'avoir à la fois le Covid et à la fois la grippe. Alors, qui doit se faire vacciner? C'est assez simple, c'est les personnes de plus de 65 ans, c'est les adultes et les enfants de plus de 6 mois qui ont des pathologies assez graves, respiratoires, comme de l'asthme, de la bronchite chronique, de l'insuffisance cardiaque, ceux qui ont fait un AVC, les diabétiques, ceux qui ont une insuffisance rénale, les personnes immunodéprimées. Et donc, ces personnes-là reçoivent dans leur boîte de postal, un bon de l'assurance maladie pour aller se faire vacciner. Mais il y a un paradoxe. Cette vaccination, elle est gratuite, elle est recommandée puisqu'on sait qu'elle sauve des vies, sauf que la couverture vaccinale est mauvaise. Les personnes fragiles à risque sont seulement 50% à se faire vacciner. Et si on s'intéresse aux femmes enceintes qui doivent aussi se vacciner, eh bien, lors des derniers chiffres, elles n'étaient que 7%. Alors, la question, elle est finalement assez simple. Est-ce qu'on a un problème d'enfants gâtés? On se pose trop de questions. Ou est-ce qu'il y a un problème de pédagogie et le message ne passe pas quant à l'intérêt de la vaccination?
Mais qu'en est-il pour les personnes en bonne santé? Est-ce qu'il faut qu'on se fasse tous vacciner, Jimmy?
C'est la vraie question. Et le gouvernement, en tout cas les autorités sanitaires, doivent y répondre. On a expliqué aux gens comment se laver les mains. Je pense qu'on peut leur dire s'ils doivent ou pas se faire vacciner. Je parle des adultes bien portants, ceux qui n'ont pas de problème de santé. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec l'hiver qui arrive, on va avoir tous nos gestes barrières, on va se laver les mains, on va être à distance, on va mettre des masques, et donc peut-être que cette épidémie de grippe va être plus légères. En tout cas, si on s'intéresse à la vaccination en population générale, on n'a aucune preuve scientifique de l'intérêt de cette vaccination. En revanche, en pratique, lorsque je vois des personnes faire des grippes, la grippe, je vous rappelle, c'est une semaine au lit à 39-40, une semaine d'arrêt maladie. Et en règle générale, celles qui ont subi cette grippe, même quand vous avez 30 ans, l'année d'après, vous souhaitez vous faire vacciner. Surtout que les effets secondaires sont plutôt légers. La seule chose, c'est qu'il faudrait peut-être que nous aussi, on montre l'exemple. Les soignants sont les premiers à devoir se faire vacciner. Pourtant, on ne respecte pas correctement cette injonction. Peut-être qu'on devrait passer par l'obligation. En tout cas, faire preuve d'un peu de pédagogie et montrer pour une fois l'exemple.
Merci, le docteur Jimmy Mohamed, que vous retrouvez tous les matins sur Europe 1 et de 15h à 16h sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Notre planète à présent, tous les matins, nous retrouvons Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Et alors vous nous dites ce matin que pour certains, Fanny, l'unique façon de faire ses courses, c'est le troc. Vraiment ?
Oui, échange paire de baskets Mathieu contre un poulet dodu, un fer à lisser à CD contre 6 kilos de riz ou encore sac à main pour du poisson frais. C'est le style d'annonce que l'on trouve autant sur les réseaux sociaux que sur les plateformes dédiées à Manille, aux Philippines. Ils sont légion, les sites de troc apparus pendant et après la crise Covid. La raison, elle est évidente Mathieu, le manque de rentrée d'argent pour des milliers de familles a poussé les personnes à s'échanger des biens matériels contre de la nourriture. D'ailleurs, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, au Venezuela, ce système qui était déjà massivement employé avant se transforme pour certains en seule et unique façon effectivement de faire ses courses.
En France, c'est la même tendance ?
Alors Mathieu, en France, nous n'en sommes pas là, bien que le pouvoir d'achat des Français ait baissé suite à la crise. Quand on passe en revue toutes les annonces, on remarque que les échanges ne sont pas forcément orientés sur les denrées alimentaires. Mais il est toutefois clair que des plateformes comme MyTroc ont vu leur fréquentation augmenter de plus de 20% ces dernières semaines, avec des centaines de nouveaux inscrits par jour, me disait Floriane Haddad, c'est la fondatrice du site. On y trouve des annonces tout aussi insolites, telles que échange scooter contre carriole pour chevaux, timbre de collection contre graines de tomates, ou encore ce lave-vaisselle quasi neuf qui cherche un nouveau propriétaire en échange de cours de maraîchage. Preuve qu'une tendance se dessine, celle d'une économie parallèle qui ne vient pas supplanter les échanges monétaires, mais qui prend tout de même une place indéniable.
Un système qui a de l'avenir devant lui ?
Complètement, les transactions vont bon train et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Une étude Ipsos a révélé que chaque foyer français possède près d'une centaine d'équipements électriques, souvent laissés au rebut. Et en fonction de l'habitation, ces chiffres varient de 73 équipements pour les appartements à 118 pour les maisons. De quoi troquer encore et encore et de faire tourner tous ces biens de main en main sans jamais plus qu'ils ne prennent la poussière. Voilà qui vient révolutionner notre façon de consommer en valorisant davantage l'usage d'un produit plutôt que sa possession.
Merci beaucoup Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins 8h40 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous dans quelques toutes petites secondes. La revue de presse, Nicolas Canteloup avec Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans notre studio. Sonia Mabrouk qui s'en invitait.
Oui, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour, alors quel est le bilan de cette première semaine de rentrée, Jean-Michel Blanquer ?
Écoutez, Sonia Mabrouk, malgré ce que l'on dit, j'adore. Je pense que... Je vous remercie, madame Julie, de ce jugement. Hâtif peut-être, mais en tout cas, je le prends. C'était une semaine, une rentrée qui s'est, je crois, très bien passée. Il y avait, je crois, pour chacun d'entre nous, pour les professeurs, les élèves, un vrai bonheur de se retrouver. Tout le monde était heureux. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. N'ayons pas peur des mots, comme dirait Marc Lévy, la vie est belle, les fleurs poussent et les élèves sont bien vivants.
Formidable, Jean-Michel Blanquer. Et sur l'ensauvagement, quelle est votre position ? Pourriez utiliser ce mot d'ensauvagement ce matin, Jean-Michel Blanquer ?
Écoutez, sur ce mot, je ne suis pas adepte de ce mot d'ensauvagement, même si en même temps, il faut décrire une forme de réalité de la société. Mais c'est vrai que je ne suis pas fétichiste de ce mot. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a certaines violences qui nous entoure et que l'on constate dans les établissements ou ailleurs, dans la vie civile. Mmh. Et en même temps, je ne suis pas pratiquant de ce mot. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une forme de réalité. Et en même temps, enfin, vous l'avez peut-être compris, en même temps, je suis emmerdé. Voilà. Je préfère d'autres mots comme bonheur, comme même clafoutis ou dromadaire. Je préfère ce genre de mots.
Merci Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous Sonia. Allez tout de suite, le principal titre de l'actu avec vous Mathieu Béliard.
Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. L'actu du jour, c'est bien sûr ce plan de relance annoncé par le Premier ministre Jean Castex. 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est une vraie somme.
Eh bonjour. Bonjour. C'est votre serviteur Jean Carsex, Miss Loto, et bienvenue au grand tirage de la française de la relance. Un tirage exceptionnel aujourd'hui puisque la somme en jeu, mesdames, messieurs, chers concitoyens, de 100 milliards d'euros, tout de suite, Maître Boulier, le tirage au sort. Alors, ça clignote ou pas? Est-ce que nous avons un gagnant? Oui, oh là là, ça clignote de partout, plusieurs gagnants, même puisque ce sont... Oh là, oui, je vois les noms qui s'affichent, ce sont les entreprises françaises qui l'emportent. Nous sommes désolés pour les smicards, les soignants et autres professeurs et policiers. On vous augmentera un autre jour. En tout cas, merci d'avoir joué avec nous.
Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, Patrick Belkadi. Les 100 milliards, comment on fait pour... voyez ce que je veux dire, pour en avoir un petit bout, quoi. On s'inscrit à un truc, on remplit un formulaire CERFA, il y a quelque chose, c'est quoi, c'est pas... Non, parce que si c'est pour les entreprises, moi j'en ai plusieurs au Panama, aux îles Caïmans, qui sont à l'arrêt, vous voyez ce que je veux dire, elles manquent de moyens. C'est important, monsieur Castex, de nous aider, nous les PME. Hein.
Oui, allez, c'est bon, merci à tous les deux.
Merci. Merci.
Ce plan de 100 milliards bénéficiera surtout aux entreprises. On est avec le ministre de l'économie. Bruno Le Maire, bonjour.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, sur ce point, il n'y a pas de débat. Ce matin, vous pouvez vous réjouir, l'argent va ruisseler. L'argent, oui, disons les mots, va couler à flot. Vous allez vous rouler dans le pognon. Monsieur Béliard, vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez pouvoir vous offrir une nouvelle coupe de cheveux.
Alors, cet argent doit servir pour l'emploi et la transition écologique. Mais quand on vous a demandé ce qui allait se passer si les entreprises ne respectaient pas ces conditions, vous avez déclaré « Nous attendons des entreprises qu'elles jouent le jeu. Contrepartie n'est pas conditionnalité. » En gros, c'est pas contraignant, quoi.
Hein ? Et allez, ça y est, j'entends la gauchiste qui sort de sa boîte.
Mais non,
ce n'est pas contraignant. Mais vous savez quoi, Mme Julie, je vais vous dire les choses. Nous estimons que les entreprises, les grands patrons, sont des gens responsables. Hein, vous savez, je vous propose, puisque vous avez un standard qui ne sert pas toujours à grand-chose, je vous propose d'appeler. Non, vous ne donnez pas toujours la parole aux auditeurs. Je vous propose, tiens, allez-y, jouez le jeu. Appelons ensemble, si vous voulez, un patron pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et vous verrez qu'il sera sensible aux grands défis qui attendent la France de demain.
Entendu,
je suis sûr que ce sont des gens responsables.
Ben, si vous voulez, on va appeler le patron avec qui on était hier. Hein, monsieur...
Écoutez, je suis prêt à discuter avec lui.
Ok, monsieur Roger Lafarge, du cimentier Lafarge.
Allô, attendez,
allô,
attendez,
monsieur Lafarge.
Deux secondes, excuse-moi. Hein.
Monsieur Lafarge.
Mais c'est un peu la musique, là, il y a le téléphone. Ouais, mais on s'entend pas, là.
Non, monsieur Lafarge.
Non, remets ton slip. Descends de la table. Elle fait solide, descends de la table, là. Oh putain. Eh, 100 milliards, ils vont nous mettre, là.
Monsieur Lafarge.
J'ai servi avec le CICE. 40 milliards, il nous a servi sur un plateau, 100 milliards là. Qu'est-ce qu'il va me faire, André, hein?
Monsieur Lafarge.
Tu veux un bateau? En bon. Prends ça chez au Mercury, hein. Bien. Attends.
Monsieur Lafarge.
J'ai oublié. Allô?
Monsieur Lafarge. Monsieur Lafarge. Oui, c'est Bruno Le Maire, le ministre des Finances et des Comptes Publics. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez bénéficier du plan de relance de l'État à 100 milliards.
Ouais, monsieur le ministre, ouais, nous avons appris ça.
Oui.
Et, j'ai envie de dire merci.
Sans prix.
Non, c'est sympa. Franchement, vous n'êtes pas rancunier, hein, nous, du ciment dans la Seine, et vous, vous mettez 100 milliards dans le tuyau. Quelque part, les écolos dans le cul. Les écolos, je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais ils n'avaient qu'à faire du business, hein, au lieu de jongler pieds nus à des feux rouges, là, dans leur temps.
Alors, monsieur Lafarge, ce plan, on l'a dit, n'est pas contraignant. On compte sur vous sur le redistribuer. C'est la théorie du ruissellement. Qu'en pensez-vous?
Non, mais vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Voyons là, on est avec notre collègue patron. Là, je suis avec eux là, du CAC 40 et on est justement en réunion au jacuzzi, en réunion de travail là. Avec Jean-Michel, ils sont là, ouais, ils sont tous là. Ils vous saluent d'ailleurs. Jean-Michel Auchan, il y a Patrick Gauliac, il y a Hubert Carrefour, Joseph Vivendi.
Saluez-les pour moi.
Ils sont là. Et voilà, non, on est responsable, on prend conscience de nos responsabilités, on sera responsable et. Vous inquiétez pas, monsieur le ministre, ça va ruisseler. Ouais, ça ruisselle depuis ce matin.
Eh bien, écoutez, merci, messieurs. Je suis heureux d'entendre votre sens de la responsabilité ce matin. Ça fait du bien d'entendre que les entreprises se réjouissent d'aider leur pays. Ça, c'est du vrai patriotisme. Merci, messieurs.
Alors évidemment, depuis l'annonce de ce plan de relance de 100 milliards qui doit créer 160 000 emplois, le CICE est dans toutes les conversations. Bonjour François Hollande.
Oui, bonjour. Écoutez, risque de vous surprendre, ce matin je serai direct. Mm-hmm. Ce plan de relance, c'est de la merde en boîte.
Allons, monsieur Hollande, enfin, 100 milliards, c'est très ambitieux.
Mais très ambitieux, très ambitieux, c'est... Quoi ? C'est trop facile. Ils font rigoler tout ça en sensé Castex. Hein, sauver le pays avec 100 milliards, mais c'est trop facile. Hein, c'est comme gagner le Tour de France avec une Formule 1. si moi, on m'avait donné 100 milliards, moi aussi, je bluffais tout le monde. Il n'y a pas de quoi fanfaronner aujourd'hui. Moi, souvenez-vous, quand j'avais annoncé le CICE, je n'avais que 40 milliards en poche.
Oui, mais enfin, le bilan du CICE, il n'est pas bien reluisant. Hein. On parle de 100 milliards de dépenses, au final, pour une création d'emplois qu'on estime entre 200 000 et zéro. Hein. Alors, si ça se trouve, ça n'a servi à rien, votre truc-là.
Votre truc-là, non, mais vous savez quoi, je vais être très direct avec vous. Ce que vous faites là, ce n'est pas professionnel. C'est très mesquin. Hein. Ça en a créé, oui, moi aussi, je peux le faire, mon Macron. Ça crée des emplois. Voilà, ça crée des emplois, des emplois de nombreux emplois. Des agents d'entretien sur des yachts de gros actionnaires, femmes de ménage dans des villas de dirigeants à Saint-Tropez ou ailleurs. Des métiers qui comptent, croyez-moi, à Megève, à Saint-Barth, à Courchevel. Il n'y a plus un seul chômeur.
Eh ben, merci, monsieur Hollande. Allez, pour terminer, un petit mot sur le tennisman Benoît Paire. Vous savez, il a été exclu du tournoi de l'US Open pour avoir été contrôlé positif à la Covid, mais qui a critiqué le protocole du tournoi. Bonjour Nelson Monfort.
Oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous, cher Jimmy, cher Laurent. Quel soulagement pour Nadal et Djokovic. Benoît Paire, le grand Benoît Paire exclu. Ils vont peut-être avoir enfin une petite chance de gagner le prestigieux tournoi. Oh, je ris tout seul, pardonnez-moi. Non, je plaisantais, vous l'avez compris. Il ne savait même pas qui est Benoît Paire. Les malheureux. Alors, Benoît Paire, pardonnez-moi, a été positif à la Covid-19, mais toujours pas au service gagnant, ni au coup droit, ni positif au revers ou au passing shot réussi.
Vous comprenez, Nelson, la décision des dirigeants de l'US Open, dirigée contre Benoît Paire.
Oui, c'est très compréhensible, ma chère Julie, parce que vous le savez, on ne joue pas au tennis avec des gants de façon précautionneuse, donc le Français va infecter toutes ses balles et malheureusement, vu le manque de maîtrise des trajectoires, la maladie va se répandre. On a déjà retrouvé des balles de Benoît Paire à plus de 35 km du cours où jouait Benoît. Donc si on veut éviter la propagation du virus, gardons Benoît en quarantaine, à vous Paris.
Bravo Nicolas Canteloup, ses auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange. On retrouve la revue de presse avec Julie. Merci Julie, lundi matin en direct, cela va de soi. 8h57 sur Europe 1, Philippe Vandel nous a rejoint, tout sourire.
Ouais, bonjour Mathieu, bonjour parce que je rigolais de ce que disait Canteloup. Bonjour Mathieu, on va rester dans le sport pour notre info média du jour avec l'ouverture du procès de la plus grande fuite des données de l'histoire du journalisme. Ça s'appelle les Football Leaks. L'occasion de se demander dans quelles conditions travaillent les lanceurs d'alerte. Quelles garanties de protection ils ont quand ils en ont une? L'invité média, Harry Roselmack, le journaliste qui fête les 20 ans de 7 à 8, magazine emblématique de TF1, lui, ça fait 15 ans qu'il y est. La nouvelle saison va débuter après-demain dimanche et elle marque l'arrivée d'un nouveau visage qu'on ne voit pas. Vous allez voir ça. Et puis enfin, Alexandre Desplat, compositeur de musique de film, 2 Oscars, 3 Césars. Petit rappel, c'est lui, par exemple, qui a composé les musiques des films Le Discours d'un Roi, Harry Potter ou Les Reliques de la Mort, Le Grand Budapest Hotel, De Rouillé d'Os, La Forme de l'eau et j'en passe. Tous ces gens seront avec nous.
Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue de 9h à 11h sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end aussi. Oui. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller demain et après-demain. Moi, je serai là lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.